Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 187. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Benjamin Pelletier.
Benjamin, qu'on t'entend.
Benjamin qui est high energy. Là.
Ouais, mais ouais. Il est plus non, présent que la dernière fois.
Je m'attendais à une présentation à part, là, vu que je suis pas dans le line-up régulier. Là, mais
c'est... Ouais, ben, t'es dans le line-up régulier de notre spécial de fin d'année.
Bon, c'est vrai.
Ça, c'est clair.
C'est vrai.
T'es toujours là.
Ouais. Ben oui, Rémi, tu l'as dit, c'est notre spécial de fin d'année. C'est là qu'on fait la rétrospective. Dernier épisode avant un bout. On va se prendre un bon congé dans le mois de janvier. Congé mérité. Quelle année, mes chers messieurs autour de moi. Ça a vraiment été une année assez folle. Puis j'aimerais ça qu'on commence juste un peu par un peu des tranches de vie perso, mais quand même, c'est important. Moi, entre autres, là, je sors à peine du Festival Plein Écran, troisième édition. Ça a été super cool. On est vraiment contents. Puis on a eu un bon public, il y a eu des bons films. Pour l'anecdote, c'est ça, le Grand Prix, donc Plein Écran. Cette année, c'est Crème de Menthe qui succède à Ruby de Pleine de Marde et Elle pis son char.
Ouais.
Donc, très, très cool pour Crème de Menthe, un film qui a eu un beau parcours. On est bien contents. Et on a fait aussi quelques petites annonces, comme on va notamment faire un programme de court-métrage qui va circuler en salle au Québec et en France. Ça, c'est vraiment nice. Donc, notre distributeur français Ligne 7, ainsi que notre distributeur québécois Maison 4 tiers, on les salue. Ils sont très, très cool. Fait que ça, c'est pour ma fin d'année, c'est un peu ça. Mais là, il y a aussi tous mes collègues qui ont eu plein de belles nouvelles, notamment Pascal Plante.
Ben, quinte, toi.
On sait que tu tournes ton nouveau film, Nadia Butterfly, tu as eu officiellement l'aval du gouvernement.
Ouais, du gouvernement, de l'argent des taxes.
Ben oui.
C'est ça. Trudeau, t'as ça, toi.
Les honnêtes travailleurs. Non, c'est, là, c'est François Legault.
En fait, ah oui, c'est François Legault.
C'est sous la SEDEC. Hein. Mais c'est bon, François Legault, à date, il n'y a pas encore... C'est vraiment pas de nouvelles, bonnes nouvelles en culture, tu sais. Tant qu'il n'en parle pas, c'est bon, tu sais. Il n'y a pas sabré dedans encore. Donc, moi, je suis directement bénéficiaire du fait qu'on n'est pas dans ses priorités. mais non, blague à part, c'est vraiment malade. Parce que là, tu sais, Téléfilm nous avait déjà nous appuyé en production. Moi, j'avais reçu des sous pour l'écrire, ce fameux film. Mais là, on est certain de tourner à l'été 2019. Date, évidemment, c'est à venir, là, mais... Ouais, c'est avec Nemesis Film, ma copine Dominique Dussault, productrice émérite, qui me produit. Film qu'on veut faire avec des vrais athlètes, fait qu'il faut les trouver, il faut les dégoter. C'est tout un défi de casting, plusieurs défis, mais ça va être un beau projet. Ouais, fait que moi, mon année, elle s'enligne vraiment là-dessus.
Ah, mais c'est tellement fou, parce qu'en plus...
Ouais.
C'est
une sorte de ton parcours de... En plus
c'est ça, t'étais à
fond. T'étais dans le festival récemment.
T'es quasiment encore dedans, là, tu sais.
Ben oui, parce qu'on apprenait aussi, à peine il y a quelques jours, que Les Faux Tatouages est en nomination, en fait, pour le prix AQCC du meilleur film québécois de l'année.
Oui, en février, c'est ça, c'est pendant les rendez-vous qu'ils remettent le prix. Non, regarde, on va y aller, là, dans le bilan. Moi, c'est une belle année, là. Une année qui commence à Berlin, qui finit à classe ADEC, là. Chris, je peux pas demander plus. Mais vraiment, je veux pas... Moi, j'ai tout le temps de penser pour ceux qui travaillent fort puis qui l'ont pas facile aussi, vraiment. Là je suis comme content que ça récolte, mais je suis tellement conscient que des fois, c'est une affaire de momentum, ça peut venir puis partir. Il n'y a rien qui nous est dû, vraiment. Puis je le pense, il y a tellement de gens talentueux qui veulent faire des films. Fait que, écoute, j'en profite tant que ça passe, mais tu sais, c'est ça, il faut les faire pour les bonnes raisons, les films, parce que c'est pas juste comme quand ça va bien.
Les gars, ils sonnent comme s'ils n'avaient pas travaillé, là, comme ça.
Non, mais j'ai travaillé fort, je suis fier de mon scénario, c'est ça, je me l'enlève pas, mais c'est des fois, ça se peut qu'il y ait des épisodes de disette, hein. Il y a des artistes qui ont des track records super, puis que, ouais, finalement, ils ont des creux 2 ans, 3 ans, muets, puis... Fait que ça peut arriver, tout à fait. Donc, il faut faire les films pour les bonnes raisons. Puis, c'est ça.
C'est beau ce que tu dis.
Ben non, mais Chris, c'est vrai, je le pense. Ouais. Même. C'est clair. Mais là, je suis chanceux, ça vient plus tôt que tard. Fait que je vais le prendre.
Ouais, puis tant qu'à être dans la célébration aussi, quand même, c'est assez surréaliste de penser que dans la shortlist des courts-métrages pour les Oscars, des films de fiction, il y en a 10 en ce moment qui sont à la shortlist. Il y en a 5 qui vont être officiellement en nomination, ça va être annoncé plus tard.
Ouais.
Mais à l'heure où on se parle, il y a 2 des 10 films qui sont québécois. Non seulement québécois, mais distribués par H264.
Ouais, je sais.
Ça, c'est vraiment fou. H264, en un an, sont devenus genre les distributeurs les plus hot au monde. Là. Genre, comme tout le monde au Québec vont vouloir envoyer leur cours à eux, c'est sûr.
Ouais.
Donc, Fauve et Marguerite, vraiment félicitations à ces deux équipes.
Ouais, deux films full différents, mais les deux pourraient... pourrait s'y rendre. Tu sais, rendu là, c'est tu flip a coin, là, carrément. Là, c'est vraiment... tu sais, parce que Marguerite, c'est un film qui est peut-être plus posé, plus convenu, mais en même temps, il est très élégant, bien fait, qui tire des sentiments.
Puis aux Oscars, c'est pas nécessairement tout le temps les films les plus audacieux, loin de là. Donc, c'est ça, il y a quand même des bonnes chances.
Mais je disais pas ça nécessairement négativement. Ouais. Je pense qu'il y a une émotion qui est certainement générée par le film. Puis en plus, je pense qu'il est peut-être aussi un peu porté par l'air du temps. Déjà, une réalisatrice, mais aussi, tu sais, thématique qui peut potentiellement plaire, hein, tu sais.
Puis l'air du temps, non, parce que c'est quand même très, très rare qu'on parle de la sexualité et du désir des personnes âgées. Donc, ça, chapeau, là, tu sais, c'est... Non, moi, rendu là, je pense que c'est ça.
C'est pas juste... coin. C'est vraiment, c'est mon gueule, c'est mon gueule.
C'est incroyable, puis c'est sûr que, tu sais, je suis le premier à charler sur les Oscars, mais s'il y en a un ou les deux qui se retrouvent là, on rend nos chauvins un peu.
Les deux, ça serait assez fou pour vrai.
Ça serait mon gueule. Mais je vais en raconter une anecdote méga vite. J'étais à Sundance une année où une de nos roommates, parce qu'on était dans une maison comme avec plein de locataires, c'était une Polonaise, mais j'ai oublié son nom, elle avait été shortlistée pour le documentaire, court-métrage. Fait que eux, là, tous les Polonais, ils étaient à Park City, puis ils écoutaient comme l'annonce des Oscars, puis finalement, elle a comme pas passé. Puis là, c'était comme tout le monde dans la maison, c'était genre, ah, tout le monde a comme filé, tu sais. On a vécu la frénésie, mais on a aussi vécu la déception, parce que, tu sais, je pense qu'on peut jamais se permettre d'y croire, mais quand t'as une chance sur deux, là, honnêtement, faut que tu te permettes d'y croire.
Ouais,
fait que c'est ça. T'sais, on va leur souhaiter pas de déception.
Just happy to be here, you know.
Ouais,
non, dans ta tête, t'es.
Non, mais tant qu'à être là, tu veux y aller all the way, là. C'est clair.
D'ailleurs, il y a plusieurs articles sur le fait que sur la défaite entre gros guillemets de Sophie Dupuis avec Shane Gard.
Ouais, mais c'est ça. Ils font un article sur la défaite, puis à la fin, en bas de l'article, c'est Marc-André Lucier qui a fait cet article-là. Je sais exactement de quoi tu parles. Puis il y a genre deux phrases. Ah, oh, puis en passant, il y en a deux qui sont dans le shortlist, mais c'est comme. Pourquoi tu fais un article sur celui qui a fait les parce que
parce que le grand public les courts-métrages
c'est pas mais au final c'est une réussite là qu'elle soit rendue jusque là pourquoi il faut que tu mettes en lumière le fait que c'est l'article c'était plus d'espoir pour Shane Gard ou un truc de même c'est comme
non c'était vraiment c'est ça défaitiste puis je veux dire il y a une défaite là il y a 10 films dans la shortlist 5 films nominés puis il y avait genre 80 quelques soumissions là
tu sais non mais on l'est les 10 films tu sais je veux dire il y a Roma Burning
Cold War
c'est Manly Shoplifters fait que regarde c'est très honorable.
Moi, d'ailleurs, elle a reçu l'argent aussi en même temps que... Non?
Oui, Sophie.
C'est une des 11 qui ont été annoncées.
Exact.
Là.
Ouais. Elle a un autre projet là, qui tournerait en 2019
ça
aussi.
Va bien, ça va bien.
Ouais, c'est
ça
va bien. Ouais. Mais des fois aussi, il faut faire attention. Des fois, c'est les choix de titres. T'sais, des fois, les journalistes qui écrivent... Ben, Marc-André Lucier, je ne connais pas son cas précis, mais des fois, les articles sont écrits puis c'est plus... Il y a comme quelqu'un d'autre qui décide les titres. Là. Je sais pas comment que
non,
la presse
fonctionne.
Non, on
blâme pas personne en particulier.
Sauf que le message qui est lancé est un peu étrange parce que comme... C'est ça.
Ouais, totalement.
C'est comme aux Olympiques quand un Canadien se retrouve avec la médaille de bronze, quelque chose comme ça, puis on est comme « Ah, dommage! » Ouais. C'est comme « Ben, dommage! » C'est un des meilleurs au monde, on a dit.
Il a perdu.
Ouais. Oh well.
Puis aussi, dans les shortlistés aux Oscars, il y a deux films canadiens. Un documentaire, My Dead Dad's Porno Tape, et aussi Animal Behavior, production de l'ONF. Donc, on est très contents, on est très hâte. Et puis, encore une fois, le Québec et le Canada rayonnent. Donc, c'est génial pour ça.
À suivre.
Mais on est là surtout pour parler de critique et de cinéma et de nos coups de cœur et coups de gueule de l'année. C'est notre épisode, c'est ça, rétrospectif. On va parler un peu de n'importe quel film de l'année. On va faire le bilan. Ouais.
On a amené Benjamin juste pour que Rémi puis Benjamin puissent parler d'Halloween face à face.
J'aimerais ça qu'on passe pas trop de temps là-dessus.
Non, on parle pas d'Halloween.
C'est pas un film marquant de l'année.
Il est pas dans mon top 10, là, juste à rassurer. J'ai bien aimé ça, mais tu sais...
Pour ceux qui savent pas.
C'est ça, vous le voyez pas, mais on est quatre. Il y a une seule machette sur la table, donc...
Oui, c'est ça.
Mais quand même, parce que je dis ça un peu en boutade, mais en même temps, je trouve que c'est une drôle d'année où il y a quand même des discordes, mais tu sais, on se respecte assez pour que ce soit pas... c'est pas ça va, là. Mais tu sais, je veux dire, parce que je sais que Paul, on va en parler, mais tu sais, toi et Benjamin, là, on en a parlé un peu hors d'onde, mais comme pour vous, First Reform, c'est comme un des meilleurs. Quoique nous, en fait, il est pas éligible selon nos règles. Bon,
non, mais ça, c'est pour les top 10, mais on peut en parler ce soir quand même.
Oui, absolument.
Ouais, parce qu'il y avait déjà à Venise en 2017, c'est ça. Techniquement, il est pas éligible selon nos
critères. Puis, c'est ça, mais c'est drôle parce que puis en plus, Ordon, en tout cas, ça aussi, on peut l'attaquer, mais tu sais, je sais que Paul, t'as été très, très, très froid, tu sais, sur Burning, notamment. Moi, j'ai été froid sur Cold War, tu sais, je sais pas, puis Roma, mon Dieu. Fait que tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de films que l'un ou l'autre autour de la table, on a comme trippé, puis l'un ou l'autre autour de la table, on est comme vraiment hyper tiède.
Ouais, ouais.
Ben, ouais, mais c'est drôle.
Ben, Roma, tu sais, Roma, il y a eu la déception sur mon bord, là, tu sais, je trouve pas ça mauvais, mais il apparaît pas dans mon top 10. Là, tu vois que c'est pop sur pas mal toutes les tops, là. Ça fait que tu te sens un peu comme le vilain petit canard des critiques, là. Ouais.
Mais je pense, effectivement, c'est peut-être une année. Puis tu sais aussi, comme si tu regardes un peu les sites de prédiction des Oscars, tout ça, on dirait que c'est pas l'année où il y a comme une espèce de clair favori. T'sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, peut-être plus du cinéma américain, j'ai l'impression du côté du cinéma américain que des autres cinémas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'espèce de grand film qui fait l'unanimité cette année. J'ai l'impression que c'est assez séparé. Puis tu sais, comme quand on pense qu'un des principaux film pour la course aux Oscars, c'est A Star is Born. Comme...
Green Book, tu sais.
Puis en plus, là, Green Book, il y a comme des nouvelles, la famille de Don Shirley, là, qui disent qu'apparemment que le film est tapissé de mensonges. Puis tu sais, fait que suffit juste de un bâton mais dans les roues.
Ça, c'est pareil à chaque année. À chaque année, les films deviennent sous le microscope. Là, à chaque film, il y a des raisons. L'année passée, c'était La La Land. Là,
mais justement,
se faisait démanteler. Tu sais, c'est tout le temps, c'est le même à chaque année pour tous les films.
Mais réalisez-vous qu'il y a un des frères Farrelly qui va peut-être être nominé. Il y a peut-être un de ses films va être nominé. Un des frères Farrelly.
Le pire, c'est que c'est
un des frères Farrelly.
Puis vous en avez parlé au dernier podcast de Green Book. Puis. Je trouve pas que c'est un mauvais film, mais c'est, t'enlèves Viggo puis Ali, puis c'est un téléfilm, ce film.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est un acteur de même des films.
Un téléfilm correct, tu sais, mais genre, tu sais, quand c'est rendu un des favoris pour...
Ouais, mais
je suis très d'accord. C'est, en fait, oui, t'as raison. C'est, comme je te dis, c'est peut-être comme je disais un peu, comme le tapis avait tellement été déroulé pour que je déteste le film. Puis finalement, j'étais comme, ah non, j'ai même été un peu comme ému, gagné. Puis oui, peut-être que c'est les comédiens, mais tu sais, en même temps, un film, c'est un tout. Puis regarde, la magie avait, pour moi, semi-opéré.
C'est pas insultant, genre.
Non,
on va dire ça. Là.
Non, mais tu sais que, mais que ça gagne le score du meilleur film, on s'entend. Fait que, oh,
Rémi, il veut une bière.
On est festif.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est une bière qui s'ouvre.
Qu'entends, on dirait le bruit d'un évanouissement d'un cochon. Mais, OK, les gars, un peu de discipline. Je vais mettre mon pied à terre.
Ouais, t'es parti en plus sur la lignée des bilans personnels. Puis, genre, nous trois, on l'a pas fait finalement.
Ben, moi, j'en ai parlé un peu, mais toi, Rémi, tu veux peut-être parler de ton année. T'as fait beaucoup de montage, beaucoup de.
Ben, avec, ben, tu sais, avec Fantasia, puis Montréal de Dan qui a fini aussi, là, qui a été projet indépendant. Hein. Fait que moi, c'est sûr que mon année cinéma pour mes projets, ça a été sûr. Puis j'ai fait un des shorts que je suis plus content parce que c'est promené quand même un peu mon film Night of Sweat.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, Montréal d'Eden, ça a fait partie de ma montagne russe de l'année, là, des gros ups et des gros downs. Je l'ai fini pendant Fantasia, pendant que je travaillais pour Fantasia. J'avais la pression de présenter le film. Les billets se vendaient super vite. On a eu une salle comble de 700 personnes qui était une expérience folle. Là, que
c'est malade.
Mais si ça peut te rassurer, Rémi Fréchette, moi, je me rappellerai toujours de cette anecdote de Wong Kar-wai qui n'avait pas encore tout à fait fini le montage de 2046 lorsque ça jouait à Cannes. Et il y avait quelques... Parce que c'est un film futuriste, puis il y a quelques scènes qui s'étaient marquées genre VFX to be completed.
Ouais.
Donc, tu sais, si Wong Kar-wai ça passe pour Cannes, je pense que c'est correct. Là.
Mais Rémi, il n'a pas fait In the Mood for Love.
Non, c'est ça, j'avais... c'est exactement ça. Mais j'avais déjà
In the Mood for Love, l'étrange province.
Mais j'ai vécu ça avec... Avec Montréal d'Eden, j'ai vécu ça à Bruxelles parce que le film n'était pas fini, les effets spéciaux étaient temporaires, c'était des trucs que j'avais fait pour la présentation. Puis tout le long du film, j'étais angoissé parce que je savais que le film n'était pas fini puis je voyais tous les problèmes.
Bon, ici, c'est des frites, mais là, plus tard, on va racheter de la sauce puis du fromage dans ces liesses avec une poutine.
C'est ça. Mais Fantasia, je voulais que ça soit tight parce que l'équipe était là puis il y a eu 300 personnes qui ont travaillé gratuit pour le film. Puis c'était comme la pression de présenter ce projet-là, mais pour vrai, moi, j'ai un drop. Tu sais, c'est poche de parler des downs aussi, là, mais ça arrive, là. Mais j'avais vraiment beaucoup de pression, puis l'expérience a été incroyable à Fantasia de présenter ça devant la salle pleine, mais en même temps, j'ai eu tellement de pression de livrer quelque chose de qualité pour que les gens ils trippent dans la salle, puis que les gens qui ont donné leur temps sur le film soient contents du film. Par exemple, j'ai eu...
Parce qu'aussi, ça, c'est ce qui est quand même complexe avec ce projet-là, c'est que c'est une anthologie assez ambitieuse. On parle de quand même une quinzaine de réals.
Oui.
Fait que c'est différent d'un film que tu fais, en guillemets, que pour toi. C'est sûr qu'il y a toujours une équipe autour d'un film.
Oui, puis l'autre problème avec ça, c'est que le film ne sera jamais 100% à mon goût parce que c'est la vision de 18 réalisateurs qui sont mêlant ensemble. Fait que, tu sais, le film sera jamais un 10 sur 10. Là. Quand tu as le contrôle complet, ben c'est sûr que là, tu peux y aller all-in, puis tu assumes les bons côtés, les mauvais côtés. Mais là, fallait que j'assume les mauvais côtés qui n'étaient pas de ma faute aussi, mais c'est moi qui représente
Rémi,
le
Rémi
film.
Rémi Scorsese, là. Mais c'est il avait dit ça sur Vinyl, là, c'était pas bon, parce que je l'ai pas fait.
Ah, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais c'est ça, mais tu sais, mais au final, je suis quand même content parce qu'on s'est promené un peu, là. Tu sais, j'ai fait un super voyage à Bruxelles avec le film, passé par l'Islande en plus. On est allé au Mexique, j'ai passé une belle semaine là-bas. Ben, tu sais, toi aussi, là, Pascal, t'as fait des voyages en masse, là, mais tu sais, c'est...
Il y a pas gagné un prix à San Francisco?
À Toronto, en fait, meilleur film canadien à Toronto. Okay. Ça, c'était vraiment une belle surprise aussi.
Au, un... au TIFF ou...
Non, c'est ça. À Blood in the Snow. Mais tu sais, c'est cool parce que c'est un festival de films canadiens de genre. Fait que, bon, le bassin n'est pas si gros que ça, là, on s'entend. Là. Mais c'est une belle surprise parce que c'est un film qui a été fait sans prétention puis avec 30 000 $ là, ça n'a rien coûté. Puis je le dis toujours sur le stage après le film, puis le monde fait un peu le saut là, parce que ça a vraiment coûté 30 000 $ pour un long métrage.
L'équivalent de Papa et de Nulté.
Oh my God, c'est l'équivalent de Papa et de Nulté, ouais, c'est vraiment ça. Mais fait que c'est ça, fait que tu sais, il y a ça, puis l'autre truc, c'est Fantasia. Cette année, j'ai pris un petit peu plus ma place. J'ai comme, ils m'ont donné le titre de co-directeur des Fantastic Weekend. Fait que, écoute, ça s'écrit bien sur un CV, mais je sais pas au final, tu sais, dans les faits, je prends autant de décisions qu'Isabelle. Ça n'a pas changé beaucoup la structure, mais il y a comme, c'est un beau titre, là. Je suis content d'avoir eu ça cette année. Mais sinon, work, ça a été pas mal ça mon année.
Ouais,
une année mouvementée, je dirais.
Super, puis il y a un 2019 qui s'enligne bien aussi pour toi.
Ouais, j'espère. J'espère qu'il y aura des projets, des beaux projets qui s'en viennent. Là.
La plupart des gens qui suivent le podcast connaissent pas Benjamin, fait que Benjamin, tu peux
faire ça rapidement, là, justement, parce que...
Présente-toi.
Ben, je suis né en 1992. Non, non, mais moi, dans le fond, c'était une autre belle année avec Paul chez Technicolor Montréal, à quoi Diffuse maintenant.
Oui, oui, qui a été vendue.
Compagnie qui a été rachetée par les actionnaires principaux, qui on est maintenant une compagnie 100% québécoise.
Ouais, c'est cool.
Mais sinon aussi, j'ai fait partie du comité de visionnement long métrage pour le FNC, qui était un job ardu, beaucoup d'affaires à regarder pour... Pas beaucoup de retours, mais...
c'est ça, parce que là, la différence, mettons, avec Rémi, c'est que Rémi, quand même, il choisit environ une centaine de courts québécois. Rémi et Isabelle, tu sais, pour...
Tandis
que dans ton cas, c'est plus... Là, c'est des longs-métrages.
Ben, grosso modo, c'est la job inverse, c'est que c'est les soumissions, fait que c'est le monde qui approche le festival et non l'inverse, tu sais, puis...
Parce que c'est vraiment différent, les courts, que les longs. Tu sais, au FNC, les longs, souvent, c'est des noms connus. Ça fait longtemps que c'est le festival qui court après pour les avoir à Montréal. Donc, il y a quand même une beaucoup plus petite fraction des films qui viennent de soumissions.
Ben oui, c'est ça. Puis surtout que, tu sais, on dit que le FNC, c'est un peu un festival de festivals, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de...
C'est le best-of,
très originales, les primaires, mais c'est ça. Reste que, tu sais, on a eu Shoplifters, puis des Climax, puis des gros trucs. Mm. Mais j'ai fait une super découverte dans ce processus.
Fait que c'est pas Coréda là, qui a rempli un formulaire de...
Non, puis là, j'étais obligé de la regarder. Non, un petit film brésilien qui s'appelle Socrates, d'un jeune réalisateur qui s'appelle Alex Morato. Ouais. Premier long métrage qui a été fait avec 20 000 $ en collaboration avec l'UNICEF. Puis dans le fond, c'est un film qui se passe à Sao Paulo. Et la majorité du crew, en fait, est composée de jeunes qui a trouvé dans des ateliers. Fait qu'on parle de jeunes de comme 16 à 20 ans, je pense. Fait que c'est un film qui a été fait avec pas beaucoup, avec... avec des jeunes en formation essentiellement, puis ça donne un résultat très, 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 très intéressant.
Ça, c'est toi qui es tombé dessus à la fin.
Par hasard, là, dans la pile du document Excel, là, puis c'était... Ça, c'était
C'est quand même de la job de juste trier, là, tu sais, puis tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Quand je fais mes sélections de Fantasia, tu sais, on reçoit à peu près 300-350 courts-métrages québécois, là, seulement, là. C'est juste pour vous donner une idée du bassin dans lequel on plonge, juste au Québec, là, qui me déprime aussi en tant que filmmaker, parce qu'il y a tellement de compétition au Québec. Mais tu sais, c'est beaucoup de films, puis il y a des soirées que je me fais des soirées de courts-métrages, puis je sais jamais, là, tu sais, une soirée que ça peut être juste du bon stock, mais là... Les excellents films vont être jugés sur un autre barème parce que t'as peut-être vu trois films encore meilleurs avant.
C'est ça qui est difficile.
Puis tu peux tomber sur une soirée où t'as juste là, des films plutôt moyens, je dirais. Ouais. Là, puis,
t'es pas lié, Rémi, t'es pas
lié. Ben là, c'est ça. Là, mais tu sais, les calibres sont différents.
On n'aura pas de nom, là, mais le film de Thomas dans ce soir-là.
Thomas qui, tu sais.
Non, mais justement, j'ai choisi un nom fictif. Ben cool, super. Donc, on se souhaite à tous une très belle année 2019. Mais avant de plonger dans l'année suivante, revenons un peu sur l'année québécoise et ce qui s'est fait au Québec en 2018. Je pense qu'on est tous d'accord, puis c'est un peu ça que les médias en parlent en ce moment, c'est vraiment l'année des premiers films. Mm-hmm. Et là-dedans, on t'inclut Pascal, forcément.
Ouais. Ben, on avait joué au FNC en 2017, ouais. Mais il est sorti quand même en salle en 2018, puis il a fait plus sa marque.
Oui, mais c'est ça, puis pour le grand public aussi. C'est ça, c'est qu'il y a eu comme... Puis en plus, toi, c'est sorti exactement dans l'espèce de début d'année où il y a comme eu une avalanche de premiers films.
Ouais, c'est ça, en février, c'était
Il y a eu All You Can Eat Buddha, Les Scènes Fortuites, Chien de garde, tous ces films-là. Blanca,
oui.
Donc, ils sont sortis en même temps. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a marqué l'année au niveau du Québec. Il n'y a comme pas vraiment eu de grosses surprises, on dirait, en deuxième moitié d'année. J'ai l'impression qu'il y a eu, tu sais, comme, il y a eu des gros films qu'on s'attendait à peu près à ce qu'ils fassent, ce qu'ils ont fait. J'ai pas encore vu, mettons, La Disparition des Lucioles. Mm-hmm. Il a l'air très bien. J'ai pas vu Jeunesse, qui a gagné plein de prix non plus. que Benjamin a apprécié plus ou moins.
Avez-vous vu La Bolduc?
Non,
c'est correct pour vrai.
Ah ouais, pour
c'est
vrai.
Correct.
Mais ça doit être cool, là.
C'est dans le style de
c'est
genre.
C'est des gros films accessibles à tout le
Louis Cyr, tu sais, dans ce
domaine. Ça prend,
mais genre, moi, je sais, mais je me rends compte que, tu sais, je suis tellement pas à jour, là. Tu sais, c'est une des grosses productions de l'année, puis j'ai complètement été space out de ça.
Mais il a vraiment marché, là, en salle. Ouais, ouais, donc, mais tant mieux pour vrai.
Mais est-ce qu'on peut quand même parler peut-être d'une année de transition? Parce que si mettons, on postule du fait que Jeunesse, c'est plus l'année prochaine que les gens vont le voir.
Ouais, puis Une Colonie.
Une colonie, qui gagne plein de prix, mais que.
Puis qu'on a su aujourd'hui qui
va à Berlin aussi.
Génération
ça, c'est super
à Berlin,
cool.
C'est fou.
Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été une année super forte pour le cinéma québécois. Il y a le dernier d'Alan qui est sorti à TIFF complètement dans le beurre après des carrément des années de retard. Ben, pas de retard, mais de...
Savez-vous qu'il est à 7% sur Rotten Tomatoes?
Ouais, c'est...
Il est à 28% sur Metacritic. 28% sur Metacritic.
C'est fait ramasser, tu sais. Puis d'ailleurs, Xavier Dolan, entre-temps, a déjà entamé et fini le tournage de son prochain
de
film.
Mathémax.
Il s'est dépêché pour juste comme...
Non, mais c'est sûr, que même, c'est sûr qu'il est écœuré de ce film-là.
Ben, honnêtement, je pense que oui. Puis tu sais, on sait à quel point... On dirait que... Tu sais, comme quand t'entends trop parler d'un peu de la production d'un film puis des trucs comme, par exemple, que Jessica Chastain a été retirée du montage, ça, tu sais. Fait que c'est sûr que quand il y a de la fumée autant que ça, c'est pas bon signe. Là, je l'ai pas encore vu.
Une guerre de, ben, personne l'a vu, là, c'est ça l'affaire. Là. Mais il y a une guerre de distributeurs.
Ouais, c'est ça. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu.
Tous les distributeurs américains, français et québécois, tout le monde s'est comme battu pour le final cut du film.
Parce que moi, je me rappelle, tu sais, le cahier du cinéma, le numéro de janvier 2018, c'est les films les plus attendus avec en couverture le film de Xavier Dolan. On sait que les Français l'adorent.
Ouais.
Mais tu sais, il a pas joué à Cannes. Puis ça a été vraiment comme. C'est ça, ça a été comme une drôle année, je trouve, pour Xavier Dolan. Et donc, par ricochet, ben, pas par ricochet, mais il y a plein d'autres cinéastes, je veux dire.
Mais c'est lui qui règle le tsunami.
Fait c'est le poster boy, dire, fait que dans ça. Un sens, c'est sûr que c'est.
C'est sûr que si c'est une mauvaise année pour lui, on dirait qu'il y a des dommages collatéraux qui
là,
sont
là. Là, il
n'y
a pas eu Denis Côté. Denis Côté sort début 2019.
Ouais.
Et Maxime Giroux, bon, moi, je l'ai vu, mais tu sais, il sort en 2019 également. Exact. Fait que j'ai l'impression que 2019, ça va être extrêmement fort pour le cinéma québécois.
C'était notre. Qu'on salue au passage, là, Pierre Blais à Québec, qui fait un très beau travail. Puis lui, il avait compilé le nombre de films de fiction qui sortaient en salle l'an prochain. Et ça dépasse 50. Il y a plus de... Non, mais c'est parce que c'est comme quasiment le double de... Ça n'a aucun sens. Je veux dire, là, les rendez-vous du cinéma québécois, ils ont reçu, Rendez-vous Québec Cinéma, ils ont reçu 64 films à évaluer dans le courant de... On débouche une bière, c'est
on
bon.
Débouche une bière, ça c'est fait. C'est bon, on l'a tué.
Okay, on a la bière. Continue, Pascal.
Non, c'est ça. Mais les Rendez-vous Québec Cinéma, ils ont évalué 64 longs-métrages pour leur édition de l'année prochaine, tu sais. Mais là, il y en a, l'an, en 2019, qui sortent en salle de prévues sur le calendrier, il y en a une cinquantaine.
Mmh.
C'est un par semaine, et ça, c'est
là-dedans, il va y avoir une semaine, je vais en avoir genre 14, là.
Ben, soit ça, mais aussi, c'est que ce qui est un nouveau phénomène, tu sais, rappelez-vous, tu sais, c'est qui, mettons, Francis Bordelot, là? T'sais, vous voyez là, un peu de quel film je parle? Je veux dire, il y a tout le temps des... Non, mais c'est ça, mais il y a tout le temps des films... Wolf, là, le film Wolf.
Ah oui.
Mais mon point, pour le nommer lui, c'est qu'il y a toujours en marge des films qu'on attend, il y a toujours des genres de films surprises en plus qui réussissent à se faufiler au sein de tout ça. Fait que c'est quoi, là? Je dirais, on va faire quoi? 100 longs-métrages en 2019 qui vont sortir? Ça n'a aucun sens.
Bien, puis ce qu'on voit aussi, c'est que, bon, il y a plusieurs politiques en place en ce moment au niveau de la SEDEC puis Téléfilm, mais c'est qu'on essaie d'atteindre la parité du côté de la production. Oui. Et plutôt que de, mettons, faire moins de films d'hommes, on fait plus de films de femmes et on fait plus de films à petit budget.
Bien, t'as l'envie, là. Téléfilm, ils ont juste ouvert le robinet. en mode gambler, là, tu sais, je veux dire, on finance 50 longs métrages par année, puis on le sait qu'il y en a peut-être 4 là-dedans qui vont comme
mais
faire
est-ce
des
que,
bagues.
Honnêtement, je sais pas si c'est un problème. Tu sais, je veux dire, le tri naturel va se faire. Les films qui doivent sortir du lot vont sortir du lot. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des bébites. Tu sais, le film de 5 heures là, de Rodrigue Jean, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ce film-là va toujours rester un film niché à un certain public, puis... Puis moi, quand je vois, mettons, un film comme All You Can Eat...
Tu parles duquel, la dépossession, là?
Non. Le film qui était documentaire, là, super long, là...
Insurgence?
Non, c'est pas Insurgence. En tout cas, j'ai oublié le titre, là, mais tu sais, il a joué dans un festival, puis j'ai des collègues critiques qui me disent « Ah, faut que ça soit ça, c'est le meilleur film qu'il y a quoi de l'année, mais... » C'est comme, c'est quand qu'on va pouvoir le voir, je sais pas trop. Là. Et puis, ou un truc comme All You Can Eat Buddha, super, quand même, difficile comme film, avec, tu sais, beaucoup de fantaisie, tout ça. C'est sûr que ça, c'est des films... Moi, j'ai beaucoup aimé All You Can Eat Buddha,
tellement
en passant.
Mais il compte-tu 2017 ou 2018, celui-là?
C'est sorti en salle en début 2018, et il est finaliste pour la QCC, notamment.
Il a fait TIFF en 2017.
Mais IMDB, mettons. Là.
IMDB, c'est 2017.
Ah, c'est mélangeant, les films, avec les années. Là, c'est rendu même les iris, là. Je veux dire, il y a des films... C'est rendu
ben, les risques parce que c'est en juin maintenant.
Ben, c'est ça, mais ça mélange les années. Tu sais.
La parenthèse, c'est juste qu'à Point de vue, là, vous allez, il va y avoir les tops qui vont sortir de la gang de Point de vue au courant des prochaines semaines. Puis, en fait, notre règle qu'on s'est donnée, c'est que c'est par rapport à IMDb, la date
la
de sortie.
La première mondiale.
La première mondiale, c'est en quelle année? Fait que ça fait que des fois, on manque des films, par exemple, Phantom Thread cette année, que tout le monde a manqué. Là, comme...
on y arrive un peu. Là. Il y a vraiment beaucoup. Moi, je trouve que cette année, particulièrement, moi, j'ai beaucoup de films in limbo. Dans cette espèce de 2017 que j'ai vu en 2018, là, puis des bons.
Mais c'est aussi parce qu'au Québec, on est souvent, comme on a l'impression, la dernière roue du carrosse, puis on va faire les films tard, puis tu sais. Mais en même temps, est-ce que c'est plus mal que, je veux dire, Phantom Thread, tout le monde en a déjà parlé. Donc, c'est aussi une façon pour nous de mettre le spotlight sur d'autres films qui ont peut-être moins d'amour.
Je suis d'accord, mais tu sais, mais Phantom Thread, parce que moi, tu sais, je garde mes listes à jour. Fait que j'ai comme mon document Word dans mon ordi avec mes listes qui s'updatent.
Mais
Phantom Thread est mon numéro 2 de 2017, mais il n'est pas dans mon top sur la page qui a été publiée.
Mais on a eu l'occasion d'en parler au podcast.
Exactement.
Ça fait un bout, Paul, je me dis ça, mais un jour, là, je vais faire un article pour Point de vue. Puis je vais comme faire une genre de mise à jour de mes tops, mais je vais écrire gentil comme une coupe de liner de pourquoi celui-là il a popé. Puis parce que c'est quand même tough de keep up là-dessus, puis ça rajoute une pression en fin de l'année aussi à essayer
c'est
de
genre une rébellion ici, là, contre Paul.
La règle est nice parce que c'est.
Ben oui, puis c'est ça, au lieu de mettre Phantom Thread, tu vas mettre un film qui est sorti en festival qui sera pas sorti au Québec, mais tu vas. Tu sais, je veux dire, tout se compense.
Il y a aussi ça aussi parce que pour certains sites ou magazines où ils prennent juste en compte, mettons, les films qui ont une sortie commerciale. Et de plus en plus, je pense que c'est pas si intéressant parce que, honnêtement, moi, là, je regarde mon année là, et à peu près toutes mes découvertes, c'est en festival.
Mm-hmm.
On est choyé à Montréal, il y en a beaucoup des festivals, puis des fois, on se demande la question est-ce qu'il y en a trop. Moi, je pense pas. Mais reste que, tu sais, c'est un peu ça aussi, c'est pour mettre le comme ton Socrates, là. Il se retrouve sur quelle liste québécoise si on ne prend pas en compte les films de festival? Aucune, tu sais. Donc, moi, c'est un peu pour ça aussi qu'on avait mis ça. C'était pour mettre le spotlight sur des peut-être plus petits films qui méritent de l'amour, qui méritent une sortie, puis voilà.
Mais j'ai quand même envie de vous poser une question.
Oui.
Parce que là, on est un an plus tard, puis mettons en rétrospective, là, mettons de ma liste de l'année dernière, moi, il y a des films qui s'amélioreraient, puis il y a des films qu'on dirait que...
Oh, on a-tu nos listes sous les yeux?
Non.
Là,
mais comme par exemple, moi, l'année passée, j'avais été vraiment obnubilé par The Shape of Water, puis en réupdatant ma liste, là, il est encore dedans, parce que je suis quand même très, très fan, là, quand même, Rémi.
Je suis pas sûr que
tu
es dans mon top 10.
Mais tu sais, je l'avais mis comme très proche du top, puis là, il serait plus proche de la queue, par exemple.
Mais c'était pas ton numéro 1, même?
Mon numéro 2, après Florida Project.
Ah oui, c'est vrai.
Quand même.
Ah oui, moi, j'avais flippé les deux.
Puis juste, si je veux jouer encore au jeu, moi, Good Time est meilleur que ce que je m'étais rappelé. C'est-à-dire, Good Time, je pense que j'avais mis numéro 7. Puis là, dans ma liste updatée, Florida Project, Phantom Thread, Good Time. Pour moi, c'est les trois films. C'est les trois films qui me sont restés. T'sais.
Puis ça, parce que,
Tu sais, 10 films, c'est bien qu'on fasse pas des top 20 parce que, tu sais, 10, c'est toujours dur de faire un top 10. Ouais. Mais tu sais, là, des années plus tard, des films qui te restent réellement, là, tu sais, dans le sens qui t'ont collé là, pour de vrai.
C'est même pas 10.
C'est même pas 10 par année. Tu sais. Fait que je trouve ça correct, ça, qu'on
s'est réserve. Mais c'est ça, mais j'ai fait l'exercice, en fait, sur les 5 dernières années parce que ça fait comme. Ça va être la 6e année que je fais un top 10 annuel, puis ben, grâce à Point de vue, là. Puis j'ai commencé à updater, puis justement, à changer de... C'est un peu comme toi, là. Comme, c'est un trip de OCD, là. Tu sais, j'ai changé mes numéros.
Puis bientôt, on va arriver à la fin de la décennie aussi.
Ouais, ça, c'est clair. Mais tu sais, moi, juste en un an, il y a des trucs qui ont changé, comme dans mon top de Fantasia. Under the Silver Lake était avant Luz.
Luz.
Ouais. Mais tu sais, ils ont comme switché à.
Fait que Luz, ça sort ton numéro 1?
Non, Luz. Luz est avant. Il est maintenant avant Under the Silver Lake, mais c'est pas mon numéro 1 de tout mon top.
Okay.
Mais tu sais, il a comme remplacé. Ouais. Fait que tu sais, des trucs, des incongruités. Si tu regardes mon article d'il y a 6 mois, finalement, ça change un peu.
Il faut aussi que les gens comprennent que c'est pas de la parole de l'Évangile.
Ben non, c'est
d'ailleurs, il y a Marc-André Lucier qui vient de ressortir son 35 ans de cinéma, 350 films à découvrir, là, puis qu'il revient sur 35 ans de métier de critique, puis il est top 10 à chaque année. Puis c'est ça, il fait des commentaires un peu sur genre « Ah ouais, j'avais mis ça tellement haut cette année-là, mais là, c'est vrai que le film, on l'a oublié. »
Mais c'est un peu ça la critique aussi, c'est que c'est différent de...
Parce qu'on fait pas des maths, on fait pas de la science.
Non, mais c'est une critique quand ça sort, là, je veux dire, c'est ça, c'est une impression immédiate, bien réfléchie, effectivement.
Quand même, tu t'appliques, mais
ça reste une impression immédiate. C'est en lien avec ce que t'as pensé du film, mais aussi avec un peu avec le zeitgeist. Puis tu sais, je veux dire, il y a tout un processus qui fait que oui, effectivement... Moi, je recheck un film, écoute, pas pour bâcher, mais je recheck, mettons, Call Me By Your Name, puis, tu sais, là, il y a Paul ici, là, mais moi, ça a fait mon top 10, et puis là, je suis comme, ah ouais, je sais pas, tu sais, mais...
Mais tu peux aussi, ça peut dépendre du mot, tu l'as vu dans un bon mot, tu tripes sur le film, mais tu l'as vu, t'es en tabarnak, tu vois le film, puis t'as aucune connexion
avec... t'as vu un Bellator en lendemain de veille, t'as dormi 3 heures, genre,
tu sais, c'est super bon hangover movie sur un Bellator,
ça,
là.
Mais je suis convaincu, par contre, que ça se peut que tu l'aimes pas, le film, ou tu l'aimes moins, là, c'est correct, là. Mais je pense quand même que Call Me By Your Name, c'est avec un des films qui vont marquer son époque. Puis je pense que Timothée Chalamet, il est comme en train d'avoir une carrière à la Leonardo DiCaprio. Je pense que Call Me By Name, c'est son Titanic que genre il s'est fait découvrir.
Ou son Basketball Diaries, peut-être.
Ouais, peut-être. Puis là, il fait Dune avec Denis Villeneuve.
Moi, j'ai pas vu Call Me By Your Name, mais Suspiria est à date dans mon numéro 1 spoiler de mon top 10, là. Mais on verra comment ça va le reste de l'année, là.
Mais moi, je suis un peu OCD, puis tant qu'à faire, là, m'a voulu compter mes films de 2017 comme mes films In Limbo, là, que genre, ils ont attaqué ma liste, puis que là,
Phantom Thread, évidemment.
Ben, Phantom Thread, évidemment. Pour vrai, puis j'en ai parlé au podcast, puis on dirait que j'étais gêné de l'avoir aimé, puis aujourd'hui, je m'assume tellement plus, là. Aitonia, j'ai adoré. Je sais qu'il y a des yeux
Moi, j'ai vraiment aimé ça.
Moi, je trouve que c'est comme, tu sais, du wannabe Scorsese qui peut se tenir la tête haute devant, il y a deux films, il y a genre The Big Short puis Aitonia, pour moi, dans les dernières années.
C'est drôle parce que tu parlais d'Aitonia, puis j'avais exactement The Big Short en tête.
Oui, non, mais je trouve que c'est les deux films...
Aitonia, malade, j'ai vraiment trippé.
C'est les deux films qui, c'est-à-dire, c'est les bons élèves d'eux, on le sait, mais il y a vraiment quelque chose qui a été acquis. Puis moi, c'est peut-être un biais personnel, mais moi, tout le rapport, le côté olympique, sportif... Aitonia, pour vrai.
On aime-tu l'espèce de CGI awkward?
On s'en fiche un peu, je t'avoue.
Moi, j'ai une prédiction.
Moi, j'ai une prédiction,
c'est que son prochain film à lui, il va vraiment être ordinaire. Puis on va se rendre compte que finalement, Aitonia, c'est peut-être un coup de
chance. Ah, mais dis-moi, retourne sur l'affiche IMDb de Craig Gillespie, là, c'est genre Mr. Woodcock, genre. Puis,
mais on sent. Oui.
Ouais, mais Amané, tu tombes sur
C'est pas un mauvais film, mais je trouve que c'est un bon film pour une heure, puis qu'après, dès qu'on rentre dans les détails de l'intrigue. En tout cas,
moi,
on est en 2018, gang, là, on va pas rentrer dans une critique détaillée de Aitonia.
Non, on va pas.
Puis la dernière découverte que j'ai quand même envie de highlighter, deux dernières découvertes, c'est un film que j'ai vu à Seattle au festival. C'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Annika Berg, que personne n'a vu, qui s'appelle Team Hurricane. J'en avais un peu parlé au podcast. Adoré. Si jamais, pour quelconque raison, il pop sur Mubi ou sur n'importe quelle plateforme alternative, voyez ça, c'est un must. Puis peut-être même un dernier qui... Bon, c'est pas vrai que les quatre films prendraient d'assaut mon top 10, mais Thoroughbreds, encore.
J'en ai
parlé dans le courant de l'année.
C'est cool.
C'était plus que cool, j'ai trouvé. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de très uncanny. Il y avait comme un univers vraiment bien maîtrisé. C'est un film pièce de théâtre, mais qui n'est jamais complètement une pièce de théâtre non plus. Je lui donne du crédit à
Thoroughbreds. Les comédiens sont comme dirigés comme dans un film de Yorgos.
Ouais, c'est ça.
C'est genre, ils sont super frettes.
Exact.
C'est vraiment bon.
Mes films dans les limbes un peu, mais que j'ai beaucoup aimé.
Je pense aussi qu'il a profité d'une sortie un peu dans un temps mort, j'ai l'impression, ce film-là. Je pense que s'il sortait maintenant, on serait comme... Mais le fait qu'il est sorti comme en mars, un peu en même temps...
Thoroughbred?
Oui, il est comme
en début d'année. Il n'y a pas grand monde qui a remarqué ce film-là.
Ben, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'était un bon moment. T'sais, en même temps, à peu près, il y avait Game Night aussi, que j'ai bien aimé, mais t'sais, pour moi, c'est pas du top 10. Hein. C'est juste des films qui sont sympathiques, puis effectivement, il y a peut-être une touche de plus ou quelque chose. Moi, si je peux relancer, parlant de films qui sont sortis en mars, justement, puis à date, je sais pas si c'est quelque chose qui va remplacer ça au tout haut de ma liste à venir, mais Annihilation, là.
Ouais.
C'est comme une expérience comme quand on en a rarement, je trouve.
C'est clair.
Puis,
c'est vrai, c'est vrai.
Si on avait peut-être encore des doutes que Ex Machina annonçait un cinéaste prometteur, je pense que là, c'est confirmé.
T'as raison.
Puis,
il est consensuel, d'ailleurs. On dirait qu'on a tous beaucoup aimé Annihilation.
Moi, j'ai pas embarqué.
Non?
Mais je me sens, c'est un film que je respecte beaucoup. Mais moi, ça m'a... En fait, je vais avoir l'air un peu... À défaut d'avoir l'air crétin, moi, ça m'a largué complètement, genre. Okay. Puis c'est pas nécessairement un défaut, tu sais, mais à un moment donné, je me sentais complètement perdu par le truc, là.
Non, mais c'est un film super complexe. Parce que, en même temps, c'est quasiment ça, parce que les personnages eux-mêmes sont largués, puis sont dans la zone.
Oui, non,
puis,
c'est ça.
Ils sont mélangés, puis ça fait ce qui se passe.
C'est comme une espèce de...
Le film est sur l'imitation, mais aussi l'imitation
des
gens.
Vibe Stalker de Tarkovsky, quasiment, genre. Mm-hmm.
Ben, pas aussi, peut-être, philosophique et
raciné. Non, mais en termes de vibe...
Parce que ça s'assume aussi comme une espèce de film de genre très... C'est ça que j'aime, en fait. Je pense qu'en 2018, il y a eu plusieurs exemples de ça, puis on parlait d'Upgrade dans les podcasts, mais c'est des films comme ça qui s'assument comme étant des films de genre, sans vouloir nécessairement en faire trop. Puis ça, pour vrai, ça fait du bien. Puis là, je pense à A Quiet Place, je pense à Annihilation, je pense à Upgrade.
Ah, Quiet Place, j'avais tellement oublié que c'était cette année, ça.
Ouais, mais des films que moi, j'ai tous bien aimés, certains plus que d'autres, là. Mais ça fait du bien.
Je pense que t'es le seul autour de la table à avoir aimé.
En fait, Quiet Place, je suis sorti de la salle quand même comme primé, tu sais, on l'a vu ensemble, j'étais quand même content d'avoir vu ça. Puis plus que le temps passait, plus que je faisais... Ouais, c'est cave un peu comme film. Là. Ça veut tellement être plus que. Moi, ça, c'est un film.
Je suis pas d'accord. Je pense que
c'est un film qui, avec le temps, il a perdu son halo.
Je te pose une question, Rémi, toi qui es grand fan de films de genre. Sais-tu que les standards pour les films.
Ouais, toi, t'as pas aimé Hereditary aussi?
Non, mais pour des raisons différentes. Là. Quiet Place, je trouve juste ça épais.
C'est parce
comme
que
film,
à chaque année, il y a comme le Elevated Horror, puis Quiet Place s'assumait comme ça, puis
le Babadook, genre The Witch.
Je trouvais ça un peu épais, là, dans son. Excuse-moi.
C'est vraiment épais.
Je dis pas que c'est un film
exigeant. Les personnages
sont film efficace.
Mais
Annihilation, je trouve que c'est le film qui va un peu plus loin que ça.
Je trouve juste que ça va être plus intelligent que c'est en réalité. T'sais, ça essaie d'être comme un peu subversif, je sais pas, ça essaie d'être comme en marge. Puis
moi, j'ai
finalement,
pas ressenti ça.
Finalement, c'est plus Hereditary qui m'a charmé dans ce sens-là. T'sais. Mm-hmm.
Non, mais je veux dire, Quiet Place essaie de baser toute sa mise en scène sur genre le silence, puis on n'utilise pas le dialogue, fait qu'on va construire avec les images, mais tu sais. C'est du exposition quand même avec John Krasinski qui lit un article de journal qui explique tout, puis la musique hyper appuyée. T'sais, je trouve pas qu'au final. On va assez loin dans la proposition qui, mettons, des 15 premières minutes, je trouve, qui est un excellent short film. Puis après ça, tu te rends compte qu'il y a un autre.
Mais ça, tu vois, mais je pense qu'effectivement, comme Thoroughbreds, je pense que ce film-là a bénéficié d'une sortie au bon moment, que j'étais bien disposé à avoir un film.
Parce qu'il n'y a rien au cinéma en février, là, au Cinéplex, genre. Fait que c'est peut-être pour ça, là.
Sinon, difficile de parler de cette année sans aussi parler encore des super-héros. Tu sais, Black Panther, c'était le phénomène de cette année.
J'avais pas vu Black Panther.
Toi, Pascal, tu l'as pris un peu à tes dépens parce qu'il est sorti en même temps que ton film, à peu près.
Oui, c'est devenu comme
le gros phénomène de société. Puis, puis après ça, il y a eu Avengers Infinity War.
Je l'ai pas vu non plus. Sérieux, cette année, à chaque podcast, je dis tout le temps, j'étais cœuré, puis je finis par les voir. C'est parce que tu m'as pas invité au cinéma. D'habitude, je les vois parce que Paul me dit, hey, on va-tu voir Justice League? Puis là, je vais voir Justice League, puis je sors, puis je suis comme, bon, une affaire de régler, là, mettons. C'est quasiment plus un devoir rendu à cette époque-là.
Mais qu'un Black Panther ait un Oscar buzz, est-ce que c'est mérité
pour
vous?
Ben,
écoute, je veux dire. Les Oscars, anyway...
Non, on le sait, on relativise toujours. Mais...
Non, mais c'est pas juste ça. C'est que, dans un sens, c'est un peu superficiel, les Oscars. Puis beaucoup aussi. Puis pourquoi pas? Pourquoi pas un Black Panther?
Non, mais c'est t'sais, ça. Moi, c'est un peu mon avis, en fait. C'est ça que
j'allais ou à Star is Born, là, je veux dire, j'ai quand même beaucoup aimé plusieurs aspects de Star is Born, mais pour moi, c'est du cinéma très classique. Puis là, je pense que comme Bradley Cooper, c'est un acteur à la base, et comme Lady Gaga, c'est une chanteuse à la base et non une actrice, là, soudainement, ils deviennent meilleurs que ce qu'ils sont.
C'est
ça que tu dis. On les juge selon un peu genre, ah, ben, il est bon quand même pour un acteur. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais, t'as des cinéastes toute l'année, même, qui font des propositions de fous, puis ils seront pas en nomination.
Ben non, c'est ça.
Parce qu'ils ont pas le charisme, puis la popularité, puis le following, puis tu sais. C'est un peu le phénomène de Jennifer Lawrence qui était comme en nomination plein de fois de suite. Là.
Puis Star is Born, c'est aussi à cause de tout l'historique de cette adaptation-là qui a été adaptée 4 fois finalement.
Je pense pas que c'est à cause des autres films. Comme... Je pense vraiment que.
Il y a des gens qui ont vu la version des années 70 qui sont comme.
Je pense que très peu, honnêtement. Mm-hmm. Je pense vraiment que la majorité du public de Star is Born, c'est des.
Lambda, là.
Des jeunes qui aiment Lady Gaga, qui aiment Bradley Cooper, puis qui sont contents de voir ça. C'est pas un mauvais film, là. Moi, je trouve qu'il y a plein de qualités, ce film-là. Notamment, je trouve que la musique, elle est très, très bonne. Évidemment que c'est le score de la meilleure chanson de l'année, là, on s'entend. Là. Ça, c'est comme un lock. Là.
Ouais, ça sera pas Buster Scruggs.
Mais je pense que.
Mais c'est tellement bon, en plus, la tune de Buster Scruggs.
Puis je pense que Lady Gaga s'enligne pour le score, puis ça, pour vrai, ça me déçoit. Là. Comme, j'ai un peu le même réflexe que quand un humoriste vole le job d'un acteur au Québec. Non,
mais oui, c'est ça que tu disais. Puis tu sais, c'est qu'en plus, c'est drôle qu'on pense comme ça par rapport à des gens qu'on n'attend pas. Mais tu sais, pour moi, toutes les révélations, c'est ça. C'est-à-dire, là, cette année, dans Madeleine, là, la comédienne, là, Elena... j'ai oublié son nom. Howard. La comédienne dans Madeleine, c'est son premier rôle, OK? Pour moi, là, c'est autant un électrochoc que quand j'ai vu Sacha Lane dans American Honey.
Ou sa performance...
Elle est hallucinante.
Ouais, ouais. Dans l'actrice de Roma aussi, son premier rôle.
Ben, oui, bon. Mais ouais, c'est un peu moins un film peut-être qui...
C'est quand même pour un film... OK,
bon.
Elle a quand même le film sur ses épaules. J'ai pas... capoté comme tout le monde sur Roma, mais tu sais.
Bon.
Il y a quand même cette qualité-là.
Mais ça rejoint ton point. C'est-à-dire
que le point, c'est que tu sais, qu'on dise, hey, Lady Gaga, c'est incroyable. Tu sais, tant qu'à moi, on la met au même pied que des gens qui ont juste pas extrêmement.
Si Lady Gaga n'était pas une pop star,
mais non, c'est ça.
Elle n'aurait pas autant de buzz. Puis ça, c'est un peu triste, mais c'est question. Donc, tout ça pour revenir à Black Panther, un des films en nomination, pourquoi pas?
Ouais.
Je veux dire, c'est pas non plus un mauvais film.
C'est pas un mauvais film.
Pour moi, je l'aime beaucoup plus pour ce que ça représente que pour autre chose. Je serais super content qu'il gagne des prix. Puis oui, allons-y. Je veux voir plus de films de la culture afro-américaine, je veux voir plus de films des marginaux. Mais peut-être que, s'il prend, mettons, plus, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Mais si, mettons, il est en nomination plutôt que Black Landsman, puis que Black Landsman n'a pas, mettons, meilleur réal, meilleur scénario, meilleur film, c'est sûr que c'est une petite déception. Mais,
mais donc, la question se pose, c'est quoi un bon film mainstream en 2018 pour eux?
Moi, je pense que les films mainstream en 2018, américains, là, parce qu'on parle bien de ça, vont peut-être être oubliés. Parce que, comme, mettons, moi, je considère que First Man, c'est quand même un très bon film américain.
Oui.
Je considère que If Beale Street Could Talk, c'est très, très bon. Je pense que ces deux-là, en fait, souffrent de la comparaison avec leurs films précédents de leurs cinéastes respectifs.
C'est un bon point, ça.
Tu sais, là, après Whiplash et La La Land, First Man, c'est anti-spectaculaire. C'est un film vraiment sur le travail. Je pense qu'il n'y a pas de buzz en ce moment, nullement. If Bill Street Could Talk, à voir, là, tu sais, je lui souhaite. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Mais je pense que les gens vont faire la comparaison avec Moonlight. Ils vont être déçus. Ceci dit, s'il y a une justice dans ce monde, If Bill Street Could Talk va avoir une nomination comme meilleure musique. Parce que c'est une des meilleures musiques de l'année. First Man aussi, d'ailleurs. If Bill Street Could Talk, Suspiria, First Man, Annihilation, c'est comme 4 des meilleurs tramsors de l'année, là, selon moi.
Ouais, c'est Suspiria, là. Suspiria for the win pour ça, mais oui.
Puis
toi,
sinon, un bon film mainstream?
Ben, c'est ça. En fait, je pose la question parce que je suis un peu paumé dans ce département-là.
Moi, j'ai un bon exemple. C'est un film qui... je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film qui rallie vraiment un très, très bon milieu entre un film plus de style social et un blockbuster, quasiment. Puis ça me fait quasiment penser à quelque chose de plus old school que tu verrais plus dans les années 70. Je pense, mettons, à The French Connection. C'est Widows, man. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je sais que c'est un peu...
Je pense que c'était le seul ici qui l'a vu.
Un peu divisé de ce que j'entends au Québec, du moins. Là. Mais ça, pour moi, c'est un bon film mainstream de 2018.
Okay.
C'est un film qui « deliver the goods », entre guillemets, là, en termes de spectacle. Puis de... Je veux dire, tu sais, on pense à Steve McQueen, on pense à Hunger, puis son espèce de two-shot de 15 minutes, là, puis on est rendu à Widows, là, tu sais, je veux dire, on voit qu'il est capable de faire, je sais pas qu'il va se faire approcher pour réaliser quoi dans le futur, mais on le voit qu'il est capable.
Est-ce qu'il se fait vraiment approcher? Je pense qu'il choisit ses projets.
Ben, je sais, mais je veux dire, il va recevoir des propositions,
ouais,
tu sais.
Ouais.
Puis, mais tu le vois qu'il est capable de faire un film grand public, en gardant quand même sa touche de mise en scène, puis, je veux dire, t'as Viola Davis, t'as un cast...
Okay, parce que moi, quand je parlais grand public, j'y allais là, en mode, tu sais, je sais pas, là, dans les blocs
des vrais. Ah, c'est hyper grand public, Widows, là, don't get me wrong, là, c'est hyper grand public.
J'ai peut-être une proposition, là, mais Isle of Dog, qui est comme un consensus critique.
C'est vrai.
Je veux dire, c'est sûr que c'est de l'animation, puis c'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu sais, ça reste un film super accessible. Puis, moi, dans mon top, là, Isle of Dog, j'ai tellement trouvé ça. genre intelligent autant au point de vue esthétique qu'au point de vue narratif. Là. Mm-hmm. J'ai trouvé ça vraiment...
Moi, j'aime beaucoup, mais c'est trop weird pour le commun immortel, je pense.
Ouais, peut-être.
La décision de ne pas sous-titrer ou doubler les personnages par japonais...
Attends, c'est sous-titré comme... C'est doublé, mais d'une façon tellement intelligente.
Ouais, mais là, on parle de comme Madame Panet de la rue Panet au multiplex. Ça, c'est un shout-out à mon prof de cinéma au cégep qui utilisait tout le temps ça.
Mais, non, mais je pense aussi qu'il y a des grands cinéastes cette année qui sont peut-être pas nécessairement plantés, mais peut-être qui ont déçu un peu. Là, on parle.
Et inversement, en fait, je voulais juste aller à une affaire. Ouais. Inversement, il y a eu Black Landsman. Quand même.
Oui, grand retour d'ailleurs.
Ouais. Très accessible comme film. Ça n'y enlève rien. Ouais.
Mais c'est le réalisateur de Old Boy, hein, c'est sûr.
non, mais d'ailleurs, deux maîtres cette année qui ont fait des grands retours, ouais. Spike Lee, ouais. Et Paul Schrader.
Oh mon Dieu.
Parce que alors... First Reform, non, mais peu importe ce que vous en pensez, les gars, c'est quand même un retour aux sources. Là. Oui, c'est quand la dernière fois qu'on a débattu avec autant d'admiration le film de Paul Schrader.
Ça en parenthèse, prix de l'AQCC pour meilleur film international de 2018.
Vrai. Puis il pop up dans quelques listes aussi, mais. Écoute, c'est un film ultra drame. Je pense pas qu'il va se ramasser aux Oscars. Peut-être meilleur scénario, peut-être meilleur acteur pour Ethan Hawke, qui a quand même pas mal de buzz. Le pitch, en gros, c'est ça. C'est un prêtre un peu qui se remet en question suite à des discussions avec certains de ses fidèles. Là, ses...
Ouais.
Et puis, man, quelle exploration de grands thèmes. Tu sais, c'est bressonien, c'est bergmanien, c'est maîtrisé.
On dit Bergmanesque. Non, je
te dis.
Mais en fait,
vous savez ce que je veux dire.
Ouais, ce film-là, en fait, ça... Moi, c'est un film que j'ai adoré, personnellement. Puis, en fait, ça commence... Il y a vraiment deux films auxquels c'est très comparable, puis pas juste en termes... Je parle quasiment en termes d'intrigue, là. Je veux dire, ça commence quasiment comme... Je sais pas si tu l'as vu, mais ça commence carrément comme un remake de Winterlight, de Bergman.
Ouais, oui, ben oui.
T'as le personnage de Max von Sydow, t'as le personnage d'Ingrid Tulin, qui sont non seulement présents dans la trame narrative de First Reform, mais qui en viennent aux mêmes confrontations avec le personnage.
Avec la foi aussi.
Oui, c'est ça. Mais c'est modernisé. C'est ça. Oui. C'est que c'est vraiment modernisé. C'est pas une pâle copie. Puis non, dans la deuxième moitié, ça devient Taxi Driver-esque. Fait que c'est vraiment un espèce de... C'est un amalgame étrange, mais qui fonctionne tellement entre ces deux vibes-là. Mmh. Puis t'as des moments hyper sérieux, hyper dry, comme tu dis. Puis t'as des moments, je veux dire... fantasmagorique de je veux dire, t'es quasiment dans un film de genre des fois, mais c'est Ethan Hawke qui est juste Ethan Hawke, pour moi, c'est une des meilleures performances de l'année là-dedans, là. C'est la meilleure performance de sa carrière sûrement, là.
Moi je trouve que c'est une réussite sur toute la ligne. Et juste pour une mini parenthèse, mais l'autre très bon Taxi Driver cette année, c'est You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix.
J'ai pas vu ça va
tellement. C'est aussi un autre film qui prend vraiment des points d'intrigue très
très. Un autre film dans les limbes aussi, c'est vrai, je l'avais oublié de le nommer lui. Ouais. C'est un autre film vraiment superbe. Et d'une autre réalisatrice, Zama, tant qu'à faire, de Lucrezia Martel.
Ça, je l'ai pas encore
vu. Ça, on le prendra pas, ça va être 2019, mais on le mettra pas dans nos tops parce qu'on pourra pas.
Mais en fait, techniquement.
T'écriras un texte dessus,
techniquement, c'est 2017, il avait joué à TIFF en 2017.
Zama?
Oui, Zama, c'est pas un film.
C'est vrai.
D'ailleurs,
mais je le mentionne parce que il y a pas énormément de réalisatrices dans mon top 10. Puis de plus en plus, ça devient une genre de question.
Moi, j'attendais énormément le High Life de Claire Denis. On l'a pas reçu à Montréal.
C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. La question se pose parce que tu te dis, est-ce que j'en mets juste pas assez parce qu'on n'a pas assez showcase ces films-là? C'est mon devoir de... C'est mon devoir de les seek out, tu sais, dans un sens.
Ouais. Mais comme je dis, c'est que tous les bons films de réalisatrices, les meilleurs, en tout cas à mon œil, à part Madeleine, qui est dans mon top, spoiler, mais ce sont tous, donc, encore une fois, des films dans ces limbes-là, c'est-à-dire c'est Annika Berg pour Team Hurricane, c'est Zama, puis c'est You Were Never Really Here, qui est quand même un putain d'expérience.
On a parlé de l'année québécoise, puis là, je fais le point avec les réalisatrices, mais moi, il y a un film qui a passé là, en dessous du radar complètement, mais c'est Charlotte a du fun. Là.
Oui,
Charlotte c'est a bon, du fun. Moi, j'ai vraiment aimé ça de Sophie Lorrain. Là.
Mm-hmm. Ça a floppé, man, puis c'est dommage parce que quand je l'ai vu, je me suis dit que c'est un film qui peut rejoindre
puis,
un
puis,
public.
En fait, elle
non,
a
mais
pas
ça, c'est en noir et blanc. Quel est le dernier film en noir et blanc québécois qui a fait de l'argent?
Elle a pas eu tout ce qu'elle voulait aussi parce que le titre original qu'elle voulait donner, c'est salope dans le bon sens du terme.
Ça, c'est le terme anglais, en fait. Le titre américain,
ouais, c'est parce que c'est son titre original, c'était ça, mais les producteurs québécois, ils n'ont pas voulu qu'ils apprennent ce titre-là.
Ça, c'est tiré d'un dialogue du film, d'ailleurs.
Charlotte a du fun, c'est pas un mauvais titre.
Charlotte a du fun, ça va, là. Mais j'avais peur que ça... Pour vrai, le marketing, le même le titre, en fait, ça avait l'air de Tudor Nicole, en fait. C'est Charlotte a du fun, tu dors Nicole, un film en noir et blanc.
C'est vraiment pas pareil.
Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. En fait, je trouvais que c'était une belle exploration de la sexualité des adolescents, puis de, ben, du shaming. C'est très moderne. Puis c'est ça.
Puis à défaut d'être un peu. Parce que tu sais, ce film-là n'a pas été fait par des quote unquote jeunes. C'est réalisé par Sophie Lorrain.
Ouais, mais la scénariste, en fait, elle est comme.
Ouais, c'est comme... Catherine.
Début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, tu sais, elle est pas. C'est pas une madame de 60 ans.
Ce qu'on reprochait beaucoup à ce film-là, c'est d'être un peu vieux jeu, mais pourtant, j'ai pas trouvé.
Ah, j'ai trouvé ça, tu sais, la première shot du film, c'est une fille dans un sex shop avec un gros dildo mou, là, qui shake devant la caméra, c'est le premier plan du film. Fait que ça t'établit qu'on prendrait pas les jeunes pour des cons.
Ce film-là, puis j'avais écrit un texte dessus, je disais ça dedans, mais ce qui me. Je trouvais que c'était mis en scène avec une économie. Vraiment remarquable, comme il n'y a pas de champ contre champ dans ce film-là. C'est tout le temps une caméra fixe.
Il y a une confiance.
C'est une caméra fixe avec des pannes, caméra qui bouge pas, puis souvent des personnages qui vont. Beaucoup de blocking, genre. Jeu de staging. Mm-hmm. Puis alors que tu check la galère, mettons, là, de ce que Sophie Lorrain réalisait, là, t'es genre.
Mais tu vois,
c'est. Pas être plus loin de ça.
Mais tu vois que c'est réalisé par une comédienne parce que, tu sais, les comédiens sont vraiment.
Exactement.
Ils sont tellement bien.
Tu sais, Charlotte a du fun. Les acteurs jouent, ils se déplacent tout le temps. C'est le fun comme film, genre.
Ouais.
C'est vraiment le fun.
Un numéro de Bollywood en prime.
Ouais, c'est ça.
Qui a été ramassé un peu par les aurores du cinéma là.
Ah oui, il y avait
la pire scène, puis ils ont mis la scène de Bollywood là. Moi j'étais vraiment en désaccord avec ça, j'étais comme mon Dieu, c'est comme là on vient d'essayer de descendre l'audace, puis moi je trouve ça dommage.
Ouais.
Moi j'adore les aurores, j'adore ce que Jean-René Dufort fait, puis moi j'aime bien mieux ça que le Bye Bye là, tu sais ce qu'il fait en
Moi c'est mon but cette année, hein, je veux dire, peut-être qu'on verra l'année prochaine là, mais Montréal d'Eden, on essaie de le pousser pour avoir une nomination aux aurores.
Oh,
moi j'aimerais tellement ça, là, c'est mon but avec le film. Oh,
ben, je te le souhaite, I guess.
Toi, tu vas être comme Tom Green, tu vas aller chercher genre avec fierté ton Razzie.
Je vais tellement avoir, ouais, tellement. Ouais.
Mais ça, j'avais trouvé qu'il avait manqué la marque un peu, parce que je trouve que on aime donc ça, finalement. Moi j'aime ça, là, tu sais, qu'il y ait un peu d'audace, justement.
Mais c'est la comme position impossible des erreurs, c'est qu'ils doivent faire une émission qui parle de films que le monde connaisse.
Ouais.
Fait qu'il y en a plein des films pires que ça, puis des trucs plus maladroits, mais les gens, ils ont pas vu, fait qu'ils vont pas s'intoniser.
Je sais qu'il y a une année, il avait mis, tu sais, en pire film, il avait mis Bunker de Patrick Boivin, là, c'est un des gars de Philacteur Colleux, puis c'est un film qui a financé de sa poche, puis qu'il avait mis ça, puis j'étais comme,
c'est weird,
tu sais, c'est comme, le gars, il a fait ça de bon cœur, tu sais, il a fait un film avec tu sais, pourquoi tu mets Bunker là-dedans, puis tu sais, il en parle pas vraiment, c'est juste qu'il est en nomination pour pire film de l'année. Je sais pas, là, c'est un peu. Des fois, la marge est weird. Fait que c'est quasiment mieux de t'attaquer au cinéma commercial au lieu d'aller vers un producteur indépendant. Là. En même temps, moi, j'aimerais ça. Là,
en tout cas, c'est une scène des aurores, mais moi, j'ai trouvé que la scène de Bollywood élevait Charlotte du fun, pour être bien honnête. Pour moi, en fait, au cinéma québécois, c'est une année de doc. Moi, je trouve qu'il y a.
Oui.
Ouais. Moi, je trouve. Ben, moi, mon film québécois préféré de l'année, c'est carrément Premières armes. De Jean-François Casey, qui continue sa recherche esthétique, c'est rigoureux, c'est excessivement bien fait. Puis en plus, c'est doublé entre le fond et la forme, parce que quand il filmait des étudiants du secondaire...
La marche à suivre, c'était tellement bon.
Mais c'est excellent, sauf que on pouvait questionner pourquoi les choix de mise en scène, c'est-à-dire pourquoi tu filmes ça avec autant de froideur, puis d'esthétisme, puis d'une façon un peu... Pas désintéressé, parce qu'il est clairement intéressé par ces sujets, mais il y a une façon esthétisée un peu, puis froide un petit peu.
Ah, froide, je sais pas, là.
Mais il est dans l'observation, la non-intrusion... mais là, lorsqu'il filme des militaires, on dirait que tout à coup, ça clique. C'est exactement le bon sujet avec la bonne esthétique. Puis c'est vraiment rendu quelqu'un qui maîtrise son art d'une façon... Moi, je trouve que ce film-là, c'est pas compliqué. Il est mieux filmé, il est mieux tourné, puis les images sont plus belles que 90% des fictions que j'ai vues au Québec. Puis c'est du doc dans des baraques frettes. Puis c'est excessivement intelligent, sa conception du cadrage, puis des mouvements de caméra, lorsqu'il y en a, parce que c'est assez économique aussi à ce niveau-là. Non, moi, Premières armes, c'est de loin le film québécois le plus maîtrisé, à mon œil, cette année.
Mais ça, c'est aussi le plus gros mythe du cinéma que le documentaire ne peut pas être esthétique. Là.
Non, je sais.
Comme à chaque année, il y a, ouais, il y a des films qui, documentaires qui sont absolument exceptionnels. Puis
non, c'est vrai.
Moi, cette année, si j'ai en nommé un, c'est Free Solo. Mm-hmm. Je vous ai bien carré avec ce film-là, mais j'en reviens juste pas de ce film-là. Puis il y a des prises inédites dans ce film-là, ouais, qui seront probablement jamais reprises.
Ah, moi, j'ai le vertige, fait que c'est
sûr. Oui, c'est ça, c'est capoté.
Je vais capoter là-dedans.
Mais ce film-là, au forum, là, sur grand écran...
J'avais des sueurs froides aussi, je suis allé le voir.
C'est le meilleur film d'action de l'année. Là.
Mais je suis allé voir, sous ta recommandation d'ailleurs, j'en ai pas reparlé au podcast, mais on en a parlé hors d'onde, le premier plan du film m'a fait suer les mains. T'sais, j'avais les mains moites. Ouais, je savais que j'allais embarquer dans quelque chose...
Si je cachais mes yeux dans un film, ça serait là-dedans, c'est
ouais,
sûr.
Oui, absolument. Non, mais oui, oui, ça fait ça.
Aussi, le film, je voudrais parler un peu du film de clôture des RDM. Je ne sais pas si vous l'avez vu, L'Empire de la Perfection, John McEnroe. Mm. Parce que c'est quand même vraiment original comme film. C'est, donc,
ça, c'est le film avec Shia LaBeouf, là? Non, je
t'annonce. Non, c'est ça. Ben, c'est sur le même sujet. Donc, John McEnroe, tennisman français, américain, pardon, qui était comme l'un des meilleurs au monde quand il a fait plusieurs numéro un consécutifs.
Hein, ouais, ouais.
Plusieurs championnats consécutifs. Et ce film-là, en fait, c'est quasiment comme autant une étude de ce que peut le cinéma que sur lui, en fait. Parce que c'est vraiment basé sur des images d'archives faites à l'époque par, je ne me rappelle plus exactement quel comité français éducatif. Là, dans le fond, c'est vraiment ça, c'est des films pédagogiques pour comment apprendre à bien jouer au tennis, qui était vendu aux Français. Et il se basait sur le meilleur joueur au monde. Et à partir de ce matériel-là, le réalisateur va faire tout un discours sur ce que peut le cinéma et établir l'espèce de terrain de tennis comme une zone, comme une mise en scène, en fait, comme une scène. Et c'est vraiment fascinant tous les liens qu'il va faire. Par exemple, tu sais, toutes les lignes du terrain, pour lui, c'est un peu comme les traces, les tapes sur le sol dans à l'époque des studios, que les acteurs doivent s'arrêter vraiment à un point précis parce que les caméras ne sont pas aussi mobiles, parce qu'il y a les spots de bien régler tout ça. Et vraiment, c'est lui, dans le fond, qui dirige le drame par ses mimiques, par ses grimaces, par ses cris, qui devient un peu le joueur de tennis comme un metteur en scène. Et ça semble un peu comme un concept qui semble s'essouffler, mais le film de ses 1h30 est très divertissant. Et apporte plein de questions. Donc ça, c'était très, très cool, en clôture des RDM comme documentaire, qui est vraiment une espèce de doc atypique, qui joue en ce moment au cinéma moderne. Donc ça, je recommande. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais 2018 à Montréal, c'est quand même aussi l'ouverture du cinéma du musée, l'ouverture du cinéma moderne. À Québec, le Clap Loretteville.
Ouais,
qui l'a cru? Si on m'avait dit, là,
il va,
non seulement le Clap va quitter la pyramide pour pouvoir grandir, mais en plus, il va ouvrir une deuxième succursale à Loretteville, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme en banlieue. Là. Et 8 salles à Loretteville, là, pour moi, c'est du genre, c'est, ça n'a pas de bon sens. Là. Ce qui veut dire quand même qu'il y a des gens qui vont encore en salle.
C'est
pas parce que Netflix, c'est pas parce que c'est plus facile que jamais qu'il n'y a pas de public. T'sais. Les gens aiment sortir,
c'est drôle,
les gens aiment
parce
voir
que
des événements.
J'ai lu un article pas plus tard qu'hier, qui était à propos de ça. En fait, Netflix ne tue pas les salles, en fait. Parce que Netflix, étrangement...
Netflix remplace les clubs vidéo, en fait. C'est ben, ça tue les clubs vidéo, mais...
Oui, mais attise une cinéphilie quand même, tu sais. Puis oui, je pense que les gens la font, la différence. Il y a des films qui méritent d'être vus en salle, puis...
Ou des fois, la suite sort au cinéma et tu vois le premier sur Netflix avant d'aller voir la suite.
Ouais.
Tu sais, combien de fois, là, j'avais pas vu, mettons, une suite. J'ai vu l'original sur Netflix, puis j'ai pris un billet, tu sais.
Mettons Paddington 1, Paddington 2, mettons.
Ben, exactement.
John Wick.
Non, mais tout à fait, tu sais, c'est un peu ça aussi. Donc, non, chapeau, puis c'est vraiment excitant pour le futur de la cinéphilie au Québec, là, honnêtement. Là. Parmi les autres gros films qu'on n'a pas parlé encore, qu'on n'a pas abordé, il y en a un qu'on a tous vu, les amis. Certains films qui pourraient être l'un de nos favoris. Là.
Oh! Un favori pour les Oscars?
Favori.
On le souhaite.
Ça s'appelle-tu Le Favori en français?
La Favorite.
The
Favorite de Yorgos Lanthimos.
Il n'a pas catché le film, c'est Le Favori.
Film d'époque, donc film de costume sur une reine en Angleterre. De Yorgos Lanthimos après son la mort du cerf sacré et de Lobster. Film complètement drôle, audacieux, qui fait des gros choix.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a pensé de La Favorite, les amis?
Un des meilleurs films de l'année?
Ah, t'as peur.
Ouais, moi je suis d'accord.
Je vais mettre ça simple de même, mais.
Bon, ben c'est moi qui est encore le plus frais de la gang. C'est
non, peut-être. Non, hey, non, mais.
D'ailleurs, là.
Oui, il est très haut dans mon top, là, présentement, là. Très haut, là.
Puis d'ailleurs, j'aime pas trop parler de loi puis de criminalité au podcast parce que c'est un peu en dehors de notre sujet, mais le film n'est pas shortlisté pour les meilleurs make-up et coiffures, puis ça, c'est un crime de guerre, là. Comme, okay, ouais, ça n'a aucun bon sens, là, que ce film-là soit pas en nomination.
Ben écoute, The Favourite, on va faire un synopsis rapide, parce que je pense que ça vaut la peine qu'on passe peut-être une dizaine de minutes dessus. C'est donc, on est dans la cour de la reine d'Angleterre,
oui,
j'imagine.
Ouais, ouais.
Mais encore là.
C'est jamais trop ça qui est pris.
Mais, non, mais c'est parce que pourquoi, en fait, je marche sur des œufs pour relater un peu le côté historique, c'est parce que le film s'en affranchit dès le début.
Ouais, je veux dire,
on est vraiment dans un film qui utilise, disons, l'esthétique, quoi, 18e ou 17e? C'est peut-être même 17e, là, mon Dieu. Je sais que c'est quand même un siècle, vous me pardonnerez.
18e, me semble.
Ouais, peut-être 18e. En tout cas, bon, bref, regarde, à plus ou moins 200 ans, on se comprend. Non, mais mon point, c'est que on n'est pas vraiment, tu sais, on n'est pas avec une reine, on n'est pas dans un biopic, on est dans un film d'époque, mais qui prend des libertés. Tu sais, puis on faisait un peu des comparaisons avec Barry Lyndon, c'est un peu ça, c'est-à-dire Barry Lyndon, on n'est jamais en train de dire exactement quel était le personnage au niveau de l'histoire, parce que quand on y pense, il n'y a pas énormément de films qui vont parler, tu sais, de la grande aristocratie, tu sais, de cette époque-là, tu sais, les comment dire, tu sais, les décideurs de châteaux qui n'ont aucune connexion avec le peuple.
Ouais.
C'est ça, en fait, The Favourite, parce que c'est un huis clos dans un palais, mon Dieu, complètement baroque, là, t'sais, complètement, c'est ça, luxuriant.
Des lapins.
Oui, oui, avec des lapins, absolument.
Des
puis, donc, on suit la relation entre la reine et sa confidente, sa stratège, son acolyte de toujours, incarné par Rachel Weisz. Et cet équilibre-là, très fin, parce qu'en plus, la reine est un peu beaucoup bipolaire aussi, là, si on va se le dire.
Bipolaire ou capricieuse? Je pense que
un peu tout.
Je pense que
tout
quelqu'un qui est une reine, qui a grandi, que tout le monde est à son service, forcément, ça pervertit quelqu'un. Et
absolument.
Dieu, qu'on n'a jamais vu une reine aussi moins glamour et aussi...
Complètement relâchée.
Pour ne pas dire pathétique, mais jouer... Mais tu sais, je dis pathétique, mais jouer comme...
Jouer avec
perfection. Olivia Colman, qui est le genre d'actrice que...
Tu sais, on est à l'opposé complet de Helen Mirren là, ou de
Kate Blanchett. Olivia Colman, man, tu sais, elle a joué dans Broadchurch, puis elle a joué dans...
Elle
a joué dans plein de trucs ici et là, mais là, c'est vraiment son breakout au monde. Là,
oui, moi, je t'avoue que je la connaissais pas tant que ça, puis je pense pas être tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la découvrent.
C'est ça, alors que pourtant, c'est une vétéran.
Ben, clairement. Puis, et donc, juste pour finir un peu le synopsis rapide, parce qu'après ça, on va l'attaquer de front, mais là, cet équilibre-là est perturbé lorsque Emma Stone débarque. Emma Stone qui joue une genre de... carrément une sociopathe opportuniste, là. Quelqu'un qui arrive dans ce château-là avec des idées claires, elle veut gravir les échelons, elle veut...
Ça, c'est une question de point de vue. Puis tu vois, là, t'es un homme qui dit ça, puis je pense qu'une femme le verrait peut-être pas comme ça.
Peut-être, t'as raison, peut-être.
Je pense que c'est ça, je pense que ce qu'on en dit de ce film-là, c'est un peu comme un test, là, tu sais, c'est un peu comme un miroir qu'il te tend, puis... dépendamment de est-ce que tu vas trouver ces personnages sont capricieux ou si au contraire ils font
ambitieux ou capricieux, c'est ça, la ligne peut être mince. Mais oui, je suis d'accord, puis juste c'est ça, fait que finalement, juste pour finir tout ça, c'est que là il y a comme un jeu un peu qui se lutte entre le personnage de Rachel Weisz et Emma Stone pour les bonnes grâces de la reine,
pour devenir la favorite.
Bravo Rémi, bravo.
J'espère que tout le monde participe, mais là, de se trouver tout seul.
Bravo Rémi. fait, qu'est-ce qu'on en a pensé? Allez-y, je vais vous tuer votre bonheur. Là,
ben, cette dynamique-là, narrative, je veux dire, c'est pas... c'est rien de nouveau dans un sens.
Non,
je veux dire, c'est la Bette Davis et Anne Baxter dans All About Eve. Genre,
c'est ça.
Mais moi, personnellement, là, moi, le genre de film, exemple, de Young Victoria ou The Other Boiling Girl ou whatever, tu sais, les
films à costume.
Les films à costume, là, moi, s'il y a un genre au cinéma, parce que moi, j'aime dire que... j'aime tous les genres, en autant que ça soit bien fait, mais s'il y a un genre qui m'emmerde, là, c'est ça.
Oh, je suis tellement d'accord, là.
Ben, Barry Lyndon, c'est à part,
mais
là,
attends,
genre.
Ouais, Barry Lyndon, c'est mon exemple parfait pour dire c'est un chef-d'œuvre que j'ai pas le goût de me taper never, là. Genre,
ben,
j'ai...
C'est le meilleur.
Je trouve ça, là. Je trouve ça tellement lourd à regarder Barry Lyndon, là. Je trouve ça
mais
plate.
Mais c'est ce que
en
c'est.
Même temps,
mais ça fait vraiment une espèce de...
Non, mais c'est plate, là. C'est juste...
fou, man. T'es
c'est
fou.
Tellement slow pace.
Mais oui, mais c'est vrai. Mais Kubrick, je veux dire, il y a une espèce de lourdeur dans ce film-là que Kubrick, je veux dire, il faisait une peinture à chaque shot. Mais on n'est pas là pour parler de Kubrick.
Mais c'est un chef-d'œuvre. Je le sais que c'est un chef-d'œuvre, mais
justement, bref, Rémi, t'es d'accord? Moi, ça, c'est le genre de film... Il y en a chaque année, il y a genre Mary Queen of Scots cette année que je vais pas aller voir parce que ça m'intéresse pas. Mais il y en a chaque année, pis ces films-là, The Favourite, c'est comme la satire, la parodie parfaite d'un film de même, genre.
Ouais.
Pis c'est tellement. Ça marche tellement
même
bien.
Au niveau esthétique, c'est tellement à l'encontre de ce que tu t'attends à un film d'époque.
Exactement. Tu sais, Kubrick travaille, on parle de Kubrick, là, c'est rendu que t'es dans les fisheye carrément.
T'es dans les fisheye, des mouvements de caméra ultra rapides, un montage accéléré, tout est comme. Tout est fast-paced, en fait. Là, je m'attendais pas du tout à ça pour un film.
C'est un des films les plus divertissants de l'année.
Ou des ralentis sur, genre, un homme nu qui se fait lancer des tomates.
Qu'est-ce que tu veux slow down l'homme nu qui se fait lancer des tomates?
Exactement.
Mais qu'est-ce que tu peux accélérer les conflits entre...
Oui.
C'est ultra, ultra rythmé.
Parce que ce film-là, quand même, accomplit l'exploit d'être tellement beau et sublime au niveau de sa production, des décors, des costumes, des maquillages tellement incroyables. Mm-hmm. Et pourtant, on en arrive à oublier tout ça pour vraiment embarquer dans l'histoire parce que les actrices sont incroyables, sont bien dirigées et sont tellement... C'est tellement beau de voir toutes ces espèces de jeux de femmes qui se backstab, qui complotent, les hommes qui manipulent, qui essaient d'avoir ce qu'ils veulent.
Les hommes sont morons.
C'est Sandy Powell qui fait les costumes.
Ouais.
Puis elle a fait les costumes de tous les films plates que je viens de te nommer. Là,
Oui, mais son travail est extraordinaire.
Ben oui, mais c'est ça, ça ne marcherait pas autrement.
Mais c'est ce genre de... D'habitude, tu regardes ces films-là, tu fais « Hey, les costumes étaient beaux, hey, les décors étaient beaux. » Là, tu es rendu à un point où c'est les actrices sont bonnes, l'histoire est vraiment trippante. Tu sais, t'as pas finalement, ce qui est à l'avant-plan, c'est pas les costumes et les décors. Tu sais,
vraiment
ça, c'est magnifique.
Alors, je vais vous donner mes trois critiques. Après ça, démantèlez-moi.
Vas-y, mais je suis curieux.
Ben, c'est drôle que tu dises c'est beau, mais on passe outre. Moi, je me suis sérieusement posé la question, est-ce que, un, c'est trop beau ou est-ce que, deux, les excès de style sont justifiés? C'est-à-dire, moi, je me demandais sérieusement, c'est peut-être une déformation de où est-ce que j'aurais mis ma caméra, là, pas que je me compare à Yorgos Lanthimos, là, clairement pas, mais mon point, c'est que... Ils sont effectivement magnifiques, les plans larges, avec, tu sais, éclairés par les grandes, grandes, grandes baies vitrées, tu sais, du palais, bon. Mais je me demandais souvent, puis à répétition, là, c'est récurrent, c'est pour ça que je me permets de le mentionner, je me demandais vraiment souvent si c'était le bon choix d'angle, le bon choix de pourquoi on est loin comme ça, pourquoi on fait un beau plan alors que ce qui est vécu par les personnages est plutôt laid, tu sais, est plutôt comme tumultueux. Puis je me suis vraiment demandé si la beauté slash les fisheye ou les excès de style qui sont
évidents. C'est pas beau, des fisheye.
Non, mais je parle pas juste des fisheye, mais je parle... Ma critique, elle est deux choses. C'est soit trop beau, soit trop stylé pour ce que ça dépeint.
Moi, je
me suis sérieusement posé la question.
Ben, moi, je pense vraiment que... Puis je comprends totalement, mais moi, en fait, c'est que je pense que tous ces choix-là de mise en scène, ça amène vraiment à une espèce de... Ça souligne l'espèce d'absurdité de ce milieu-là, tu sais, l'opulence, puis Olivia Colman en espèce de gros plan qui veut faire courser des homards dans sa chambre.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, je veux dire, c'est des choix qui sont beaucoup trop gros pour ce genre de film-là.
T'sais. Non, absolument.
Ce qui fait que ça détonne avec le récit aussi, tu sais. Fait que moi, je trouvais que ça...
C'est un film qui dépeint des personnages qui ne peuvent se définir qu'à travers leur parure, leur statut, leur connaissance. Chacun utilise un peu fait des menaces à l'un l'autre parce qu'il peut...
Chantage,
menace. Pour moi, ça faisait... Tout était très cohérent, en fait, dans l'esthétique, dans le trop-plein, dans le mal de cœur que ça donne. Puis il y a des scènes magnifiques, là, justement, Olivia Colman, la reine, donc, qui se goinfre, qui se met à comme vomir, puis là, justement, ça va
être magnifique, mais c'est pas cute, là, tu sais.
Mais c'est ça.
Non,
mais ce que je veux dire, c'est que c'est exagéré.
Ouais, mais c'est ça.
C'est vraiment surligné à gros traits, comme un Monty Python. Et c'est, pour moi, c'est le même genre de critique. Évidemment, c'est un autre, un peu, un autre ton. Là. On n'est pas dans le Monty Python qui est complètement à travers le quatrième mur puis décalé. Mais on n'est pas si loin.
On est dans une absurdité.
On n'est pas si loin que ça. Ouais.
OK, deuxième critique. J'en ai trois grosses. Emma Stone, encore et toujours. Mais c'est parce qu'elle est bonne. Elle est très bonne, même. Pour moi, en fait, c'est un testament d'une bonne actrice, encore une fois, peut-être mal castée. Parce que son backstory à Emma Stone dans le film, je ne veux pas trop en révéler, mais tu sais, elle a vraiment un passé excessivement trouble. C'est ça qu'on comprend. Elle veut redevenir une lady. Elle veut redevenir quelqu'un de statut, donc. Parce que c'est quelqu'un qui est né peut-être là-dedans, puis que pour les y a des circonstances de son passé qui l'a amené à la déchéance. Et là, elle veut à tout prix, tu sais, réacquérir ce statut-là. Bon. Mais Emma Stone, elle a une face de cartoon, puis j'ai de la misère à voir les j'ai de la misère à voir les cicatrices du passé chez elle. Je trouve qu'elle est bonne, mais pour moi, c'est comme... Elle est bonne en mode déguisement. Elle est pas... J'y ai pas... J'ai de la misère à y croire.
Ah, ouais?
Ouais. Je vois pas je vois pas l'actrice troublée. Je vois pas la vraie folie. La vraie de vraie folie. Je vois l'actrice très compétente qui acte la folie.
Ah, je peux comprendre.
La vraie cicatrice, là, d'un marde dans sa gueule, là, tu sais.
En même temps, puis là, depuis tantôt, je défends le film parce que je suis très, très fan, mais reste que sa fonction dans le scénario, c'est de mener la discorde dans un couple plus âgé qu'elle.
Ouais.
Et clairement, c'est une actrice très, très jolie, très, très attirante. Oui. Et elle est très, très bonne. Est-ce qu'elle est au niveau des deux autres actrices? Je ne sais pas. Mais tu sais, c'est rendu là, c'est comme...
Au niveau de ses compétences d'actrice, oui. Mais je trouve juste qu'elle est peut-être pas bien castée.
Ouais, c'est non, ça, mais...
mini-parenthèse, puis dire que sa meilleure performance de l'année, c'est dans Maniac, qui ferme la parenthèse.
Bon.
Regardez Maniac sur Netflix, c'est bon?
Parenthèse.
C'est bon, parenthèse, c'est fini.
Fait que, tu sais, en tout cas, je lance ça dans l'univers. Moi, ça m'a un petit peu empêché d'être vraiment à fond dans sa quête à elle. Parce que je trouvais pas que la personnage qui nous est présentée physiquement... fit avec le poids de son backstory, tu sais. Puis ça m'a un petit peu empêché d'y adhérer.
En même temps, est-ce que justement, encore une fois, est-ce que c'est pas des personnages qui, pour eux, leur drame, ils les magnifient d'autant plus qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, tu sais. Peut-être que pour elle, alors que lorsque la reine raconte son drame à elle, puis qu'elle explique, je le dirai pas pourquoi, là,
non, mais
vous découvrirez.
C'est fort.
Mais vous savez de quoi je parle. Ben, ça, pour vrai... Là, c'est pour ça que je pense que c'est Olivia qui récolte tous les éloges, Olivia Colman. Son rôle est peut-être beaucoup plus... Son personnage est peut-être beaucoup plus... il y a vraiment du poids, t'sais, dramatiquement.
Clairement.
Et peut-être qu'en contre-pied, justement, celui d'Emma Stone est censé rester superficiel. Et puis là, on veut pas tout dévoiler, mais c'est ça, son rôle quand même, Emma Stone, c'est d'être la jeune ingénue qui séduit la reine.
C'est qu'on pense ingénue, mais qui finalement tire les ficelles. Ouais. Bon. D'ailleurs, tu l'as nommé, Olivia Colman, elle est particulièrement bonne parce que, bon, au-delà d'être un personnage flamboyant puis de le mener comme, tu sais, avec brio, puis il y a beaucoup d'humour aussi, je pense qu'elle est drôle puis elle est fun, elle est comme fascinante. Mais en plus, elle le joue, tu sais, je veux dire, à Mané, elle est fiévreuse, délirante. À Mané, on dirait qu'elle a fait un AVC, là.
Ouais.
Puis là, genre, elle joue comme toute la gamme de ses émotions, mais en plus de le jouer en mode semi-paralysé. Tu sais, elle est capable d'aller chercher... la couche de plus, mais en même temps, c'est très technique, physique.
Ouais,
c'est un putain de drôle, là. Non, props, clairement.
Point 3.
Ouais, dernière critique.
j'ai hâte.
Puis, c'est peut-être un petit peu un spoiler, parce que c'est pas vraiment dans la bande-annonce, mais c'est tellement dans le film que je vais peut-être...
Sois prudent, là, parce que la plupart des gens l'ont pas encore vu, là, si ça vient tout juste sortir.
Skipper 2 minutes plus loin.
Oh my God!
Mais c'est parce que, bon, le film prend un parti pris très charnel, disons ça comme ça. Sexuel, charnel.
OK, ouais, c'est correct, t'es pas trop loin, là.
Je trouve que le film devient crétin à ce moment-là, un peu, pour moi. C'est-à-dire, quand ça devient une manigance de manipulation, puis de stature, puis de bonne grâce...
Oh, ouais.
Moi, je trouve que là, on est vraiment dans quelque chose de fin. Mais lorsque on est juste dans quelque chose plus de l'ordre de la séduction, puis comme, tu sais, qui vient tirer des ficelles plus primaires...
Oui, mais en même temps, t'es dans des traits narratifs qui sont tout le temps dans ces films-là, genre, tu sais, des
jeux de pouvoir sexuels... Non, mais mettons, je vais donner avez-vous vu le film de Servant?
De Joseph
Losey.
Yes, sir.
Tu sais, ça, c'est un film qui, vois-tu, il y a clairement une attirance homoérotique, là.
Shadow, by the way, là, c'est un très grand film.
Très grand film. Sans jamais être full-on là-dedans. Puis je me suis vraiment demandé, je crois que The Favourite, puis c'est pas le forté de l'Antimos, là, d'être pudique ou de se reculer d'un potentiel tabou, de quelque chose de choquant, mais j'ai vraiment eu la nette impression que le film aurait gagné à être un peu plus pudique là-dessus, à être plus en catimini, plus implicite. Là, j'ai vraiment trouvé que le film devenait, à propos de ça, ça cannibalisait le reste du film. Puis c'est peut-être un péché, à mon œil. Je sais pas comment vous l'avez vécu, là.
Je sais pas, parce qu'on est tellement dans le gros, puis dans le... Comme on disait, tout est à gros traits, puis c'est des personnages, au fond, puis c'est vraiment... C'est quelque chose que Lubitsch disait quand il filmait... les hautes classes, puis quand il faisait ses comédies. Puis ça, c'est un film, c'est un quelque chose que ce film-là l'a fait totalement, mais c'est que c'est ridicule, en bout de ligne, ces univers-là, genre. C'est complètement
pathétique. Ah, ben ça, pathétique. le film, c'est comme on disait, le film
c'est complètement
fait
pathétique,
point.
Genre. Fait que je veux dire, les personnages, le fait qu'on rentre dans quelque chose de plus
charnel...
C'est
burlesque, c'est complètement...
On rentre dans quelque chose de plus sexuel, je veux dire, les personnages sont mis à nu, genre. Fait qu'en même temps, je sais pas à quel point le film aurait bénéficié d'être plus implicite, parce que, je veux dire... tu vois Olivia Colman en douleur se faire masser les... Il y a personne là qui est à son meilleur jour, là. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point le film aurait vraiment été mieux avec peut-être plus de retenue ou de plus
d'âge. Ouais, ça m'a tellement pas choqué, là.
Okay. Non, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Je comprends, mais
je suis pas d'accord. J'ai pas vu The Servant, fait que je peux pas avoir le point de comparaison,
bon,
mais...
C'est tellement un bon film, là. En tout cas, peu importe, là. Mais OK, mais tu sais, mais parce que je me permets de juste vous challenger un peu.
Les bémols, là.
Parce qu'on a quand même affaire à, potentiellement un des meilleurs films qui risque de popper dans les line-up, dans les top 10, dans les peut-être aux Oscars et tout ça. À défaut d'être un grand coup de cœur, il y a des qualités qui sautent aux yeux. Puis au risque de dresser le poil de mes interlocuteurs, moi, je trouve pas qu'il y a encore dépassé The Killing of a Sacred Deer.
Oh, ouais, moi, je suis pas d'accord.
moi, ça reste mon favori à ce jour de Monsieur Lantimos.
Pis The Killing, je l'avais mis dans mon flop 5 de l'année passée.
Je sais.
Ouais. Mais écoute, moi, je crois pas à ça, la politique des auteurs. Là, je veux dire, The Lobster, j'ai adoré. Favorite, j'ai adoré. Puis il a fait un...
C'est pas demain que tu vas être créateur de Gaines.
Non, c'est ça.
Oh well.
Un incontournable à chaque année qu'on n'a pas le choix d'aborder. Oui, vas-y.
Ben, je pensais qu'on allait parler de l'autre film que j'ai vu. Il fallait juste que je mentionne à Pascal que je l'ai vu. Là.
Ah oui, dans l'ordre des Discord, là.
Ben, dans l'ordre des Discord, mais finalement, c'est pas tant de Discord.
Ah ouais?
Ben, on parle du film Mandy, en fait, que j'ai attendu avec impatience. J'étais censé le voir à Fantasia. Excuse-moi, Paul, je t'ai coupé complètement.
Vas-y. Les droits ont été pognés pour une plateforme que... C'est quoi?
Shudder.
Je sais même pas c'est quoi.
Shudder, c'est quand même cool.
Shudder, c'est
tout petit,
cool.
C'est indépendant. C'est vraiment pas...
Ben, c'est lié à AMC. C'est pas tant indépendant, là.
Ah ouais,
c'est la plateforme de films d'horreur de AMC. Fait que c'est du film de genre.
Okay, tu m'apprends c'est quoi, là?
Mais c'est un tout petit catalogue. Okay. On parle de quoi?
Mais c'est 400, ça, c'est un petit catalogue. Tu sais, c'est que les gros highlights, moi, je les ai vus à Fantasia ou au BIF. Ou je fais beaucoup de festivals de genre. Mm-hmm. Fait qu'au final, tu sais, il y a des films, j'étais comme « Ah, cool, c'est là-dessus, mais je l'ai déjà vu. »
Ouais. Fait que... Mais Rémi, il y a 2000 films d'horreur dans
ouais, c'est ça. J'ai comme beaucoup de films. Fait que finalement,
c'est pas le public cible.
C'est un peu poche que je dise ça de même parce que c'est quand même. C'est vraiment. C'est un bon catalogue pour quelqu'un qui est pas.
On peut pas décourager quelqu'un d'aller sur
Shudder. Non, c'est ça. Il y a quand même des bons films dessus.
Mais moi, je vais vous entendre sur Mandy.
Mais bref, j'ai fini par voir Mandy.
Hey, moi, j'ai pas aimé ça.
Ben, j'ai été comme déçu.
T'as été déçu, Rémi? OK, là, on parle d'un film quand même dans lequel Nicolas Cage fait une bataille de tronçonneuse.
Ouais. Oui, mais ça fit pas. Il y a un gros problème.
Excuse-moi,
Rémi, mais il y a un gros problème de ton dans ce film-là. Parce que c'est super cauchemardesque. Tout est fait pour que ça soit unsettling. C'est comme des gros drones. C'est plus Blue Velvet-esque qu'un film, justement.
Avec la musique de Joan Johnson, là, qui
oui,
est comme...
Moi, pour quelqu'un qui n'a pas vu toute l'espèce de marketing autour, ça a l'air de Mom and Dad avec...
Ben, en fait,
mais c'est ça qui marche pas. C'est qu'il y a une grosse dissonance genre là-dessus.
T'as deux films dans Mandy, puis c'est ça le problème. C'est qu'il te set up ça comme un film psychédélique, là, ultra planant. La première moitié du film, c'est ça. Puis dès que... En fait, l'histoire, c'est que, t'as une secte qui kidnappe la blonde de Nicolas Cage. Là, on ne donnera pas son nom parce que c'est Nicolas Cage. Là. C'est vraiment ça. Là. Ils ont Nicolas Cage, puis on va utiliser Nicolas Cage à bon escient.
Fait que... À fond, Léon, là.
Ouais,
il y a une scène où, genre, en plan séquence, il
décollait sur la salle de bain, là.
Pour faire écho à quand il décollait sur une table de poule dans Mom and Dad.
Mais c'est vraiment, genre, la première moitié du... Ben, c'est ça. Fait que la sec kidnappe la blonde de Nicolas Cage, puis il y a comme des espèces de drogues qui infligent avec des bestioles géantes. C'est super cool, là,
c'est le Taken métal,
ben,
ouais.
Puis là, la deuxième partie, what's up?
Puis là, ben, Nicolas Cage veut aller se venger. C'est un film de vengeance. Mais la première moitié, c'est genre... c'est des trips d'images, des trips de montage. C'est vraiment hot. Puis pour vrai, j'embarquais pas mal dedans. Puis j'étais comme, fuck you, Pascal. Là, Mandy, c'est cool, là. Puis la deuxième moitié, ben, c'est Nicolas Cage qui va péter la gueule à la secte. Puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Il y a pas grand-chose d'autre à dire.
OK, mais moi, j'ai quelque chose... J'ai une question pour toi, Rémi, là. Nicolas Cage, là.
Ouais.
Tu sais, qui s'est rendu une figure culte. Mettons, quand il jouait dans Bad Lieutenant de Herzog, genre.
Ouais.
Puis qu'on commençait juste à catcher qu'il était crazy puis qu'il jouait dans...
On commence à catcher dans Vampire's Kiss.
Non, mais dans le sens que... Il était plus A-list dans ce temps-là. Fait que, mettons, il y a 10 ans, le monde commençait à faire comme... Ah ouais, il joue dans comme plein d'affaires par rapport. Puis genre, on dirait qu'il veut payer des billes, mais là... Tout le monde le sait. Fait que, est-ce que Mandy, tu penses que le film a été fait avec cette idée-là en tête?
Mais moi, je pense que.
Là, c'est le moment où ça marche plus. Là.
Mais je pense qu'il capitalise un peu là-dessus. Puis exactement la scène de la salle de bain, pour vrai, c'est. La caméra, là, genre, tout est tellement placé dans le film, tout est ultra, ultra calculé. Mm-hmm. Puis la scène de la salle de bain, là, t'as comme. La caméra, elle cherche, là. C'est vraiment, je pense qu'il a fait. Go crazy, il l'a filmé puis il a mis ça in-out dans le film, pas de coupe là. Il a juste mis Nicolas Cage goes crazy, il l'a mis dans le film tel quel, puis ça clash tellement avec le reste du film.
Y a-tu un bon film si t'enlèves Nicolas Cage puis tu mets genre acteur X là.
Mais attends, c'est compétent. Mais je vais mettre mon quand même, tu sais. J'ai été déçu, mais je pense pas que c'est un film de marde, là, tu sais. Il y a vraiment plein de scènes vraiment cool. La musique est bonne. Le trip esthétique est vraiment payant. Il y a vraiment des belles qualités au film. C'est juste que narrativement, t'as deux films. Puis à un moment donné, c'est parce que tu te fais introduire un mood avec le film psychédélique. Tu sais, il y a des drogues puis des trucs hallucinogènes. C'est vraiment hot, le début. Puis après ça, t'es dans un bloodfest avec Nicolas Cage qui coupe du monde avec des chainsaws. Mais le clash est tellement gros qu'on dirait que t'as pas le temps de te remettre dans le mood de vivre ce deuxième film-là, tu sais. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas haï ça, là, tu sais. J'ai passé un bon moment devant, mais on dirait que j'espérais un petit...
C'est pas comme le film culte que t'espérais découvrir, là.
Ben, c'est ça. J'espérais... Puis surtout que j'étais censé le voir à Fantasia, puis j'ai pas pu le voir. Fait que ça fait depuis le mois d'août, là, que je me crains qu'à voir Mandy. Mm. Puis là, je vois Mandy, puis je... T'sais, contrairement à Suspiria, que j'ai dit tantôt, c'est mon numéro un pour l'instant, mais Suspiria, je me suis vraiment craqué à le voir. Je checkais les bandes-annonces, puis j'avais tellement hâte de le voir. Puis j'ai zéro été déçu. Mandy, ça a été un peu l'effet contraire. Mm-hmm. Puis c'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais, mais c'est juste... Tu sais, c'est pas... Narrativement, c'est un peu poche, là, tu sais.
Ouais. Ben, Nicolas Cage devrait rebondir en 2019 avec son film qui vient de tourner. Non, mais son film vient de tourner Action Sono.
Ouais.
Prisoner of the Ghostland, qui dit que c'est le film le plus wild qu'il a jamais tourné.
Je savais même pas.
Venant de Nicolas Cage.
Le premier film en anglais de Action Sono.
Un statement, là.
Fait que là, ça, si ça fait pas l'ouverture de Fantasia, je vais être assez déçu. sinon, j'allais dire justement, Rémi, qu'un incontournable à chaque année maintenant, c'est Netflix. C'est rendu un joueur important. Plus que jamais cette année, ils croient à leur chance d'être en nomination aux Oscars avec Roma d'Alfonso Cuarón.
Mm-hmm.
Il y a également plusieurs gros films cette année qui sont sortis, notamment le film des frères Coen.
Le film d'Orson Welles aussi.
Le film d'Orson Welles.
On peut-tu en parler un peu?
Qui l'a vu aussi?
Moi, je ne l'ai pas encore vu. C'est ça, je me le garde pour les fêtes.
OK, c'est bon. On peut en parler.
Commençons par le film d'Orson Welles. Qui l'eût cru qu'en 2018, on serait en train de discuter de nouveau film d'Orson Welles. Juste le concept. Il y a une partie de moi là, qui ne veut même pas voir le film, juste parce que je me dis, je ne sais pas si je peux être capable de ne pas être déçu. T'sais.
Ben, voilà.
Un peu comme le Don Quichotte de Terry Gilliam.
Ouais,
c'est quand même deux événements cette année auxquels on ne croyait plus. Là. Des Graals du cinéma qu'on vient de découvrir. Ouais. Mais parlons du Orson Welles.
Ben, rapidement... Moi, j'ai un peu vomi dans ma bouche quand j'ai vu un Netflix original film au tout début de The Other Side of the Wind. Là, t'es comme, man, eux autres, ils arrivent à la fin, ils mettent le cash pour le finir, puis genre, c'est marqué un Netflix original film.
En même temps,
film.
Ça fait 40 ans que tous les autres studios auraient pu faire des œuvres.
C'est pas comme si le monde se battait en 1972 pour financer le dernier Orson Welles.
Et c'est tout le temps ça. On est toujours prompt, puis là, c'est pas contre toi que je dis ça, c'est content. Tu sais, genre, on est prompt à attaquer Netflix, mais même. Moi, là, Netflix pour le cinéma québécois va en faire beaucoup.
Ben oui, puis tu sais, je pense à Okja, mettons, l'année passée, il donne 100 millions. Bong Joon-ho, tiens, 100 millions, on va faire un film.
Ouais.
Mais bon, passez outre ça, outre le fait que bon. C'est sur Netflix. Le film en tant que tel.
C'est tellement radical. Oh my God. C'est un faux doc. Tu sais, c'est ceux qui ont vu F4Fake. F4Fake est une version un peu disciplinée de ce qu'il essaie de faire entre la vérité, le mensonge, ouais, la fiction. Puis F4Fake, il joue là-dessus comme un twist. T'sais, c'est comme, c'est un reveal, tu sais, que mm-hmm, tout ce qui était censé être vrai et pas vrai, tout ça. Là, on est juste dans un esti de délire esthétique faux doc.
On est dans un film de fiction, là.
C'est ben, comme trois, oui, films en un, là. Il y a comme, oui, trois films,
absolument,
là-dedans.
Absolument, c'est
vu, ça. Tu l'as vu, toi? Ouais, 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 ouais.
Ben, veux-tu faire un petit synopsis rapide de
The Other Side of the Wind? Ben, dans le fond, The Other Side of the Wind, c'est... sans dire que c'est nécessairement autobiographique, ouais, il y a beaucoup, ben, de Orson, ouais, Welles dans le personnage principal du réalisateur.
John Huston.
Qui est joué par John Huston, qui est très,
ouais,
Hemingway-esque.
Ouais, ouais, ouais.
Avec sa voix, puis écoute... et son acolyte, son protégé, Peter Bogdanovich, qui était... Le protégé d'Orson Welles,
ben oui,
dans la vie,
absolument.
Qui n'était pas supposé jouer ce rôle-là, mais qui, pour des,
ouais,
pour des soucis...
C'est un documentaire,
ben
j'ai pas
encore vu le film, c'est ça l'affaire.
Qui a remplacé l'autre acteur.
Ouais.
En
ouais.
Cas, ouais, ouais,
mais ça marche, on voit que ça marche encore, ouais, mieux, ouais, comme ça, mais essentiellement, c'est John Huston qui joue un réalisateur qui, un peu comme Orson Welles, avait vécu beaucoup de troubles à Hollywood, était plus vraiment en faveur, plus in fashion, et là, planifie un comeback avec un gros film artistique, un film dans le fond, un film dans le film, qui est un peu une parodie d'un Zabriskie Point.
Ouais, vraiment. Là.
Ouais,
c'est tous les films là, ouais, d'art et... les films de fiction, mais très artistiques. Là,
très européens aussi.
Oui, européens,
ouais,
absolument.
Mais c'est ouais, ou The Passenger, mettons.
Ouais, c'est ça.
Pour nommer un autre Antonioni, mais l'espèce, ouais, de vibe des réels américains qui voulaient vraiment imiter le art house européen. Oh, mettons, je pense, ouais, même dans des trucs plus de genre, là, tu peux penser à... Robert Altman qui fait Images, là, je dis, qui est comme un Batman 101, genre.
Oh, oui.
Mais en tout cas, c'est un peu...
Woody Allen Interiors, blablabla.
Ouais, bla, bla, oh, ouais, c'est, oh, ça, ouais, mais c'est ça, mais Orson Welles qui est très, très conscient de son époque,
exact,
d'où est-ce,
ouais,
que le cinéma américain s'en va, puis du zeitgeist.
Non seulement ça, mais aussi Orson Welles lui-même, dans cette année-là, a beaucoup été en France, a beaucoup...
Oui, c'est,
ah,
ça,
ben,
il était, c'est un exilé.
Il vient de 20 ans de carrière en Europe, là.
Ben oui, puis dans le fond, ce réalisateur-là, joué par John Huston... essaie de compléter son film, mais n'est pas capable. C'est meta alert. Là, mais... Et puis, dans le fond, tout le film se passe en une journée.
Ouais.
T'as,
c'est là qu'on s'en, ouais, vient quasiment à se demander s'il n'a pas lui-même saboté la complétion de son film. T'sais, parce que tu dis, s'il y a quelqu'un qui serait capable, ça, c'est bien Orson Welles.
Oya Kodar, dans le documentaire, dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais bon, on le saura jamais.
Oya Kodar, qui était la muse tardive de Welles.
Oui, c'est ça.
Qui
est l'actrice du film dans le film.
Qui est l'actrice du film dans le film, puis qui donne une composante... Encore, tu sais, Orson Welles a toujours fait du cinéma quand même très pudique aussi, hein, tu sais. Puis là,
oui,
là, le film dans le film, on est full on, là, genre des corps nus qui se cherchent. Puis il y a une scène de sexe là dans un ben, pas un taxi là, c'est la voiture de quelqu'un, mais
ouais,
sur le siège passager, c'est une, je veux dire, c'est,
mais
c'est
tu sais quoi,
c'est la meilleure
film,
scène de 2018.
Le film dans le film,
ouais,
et plus fascinant. Puis c'est quasiment une parodie de film artistique, mais ce film-là, man, est plus fascinant que comme 90% des films que j'ai vus aujourd'hui,
ben,
cette année.
Je suis assez
c'est
d'accord.
C'est juste une des quelques parcelles de ce film-là.
Puis j'ai peur aujourd'hui parce qu'il y a tellement un poids du temps qui distorsionne notre appréciation d'un film comme ça. Puis moi, tu sais, je suis un gros fan d'Orson Welles pour tout ce qu'il représente. Fait que tu sais, on dirait que je voulais l'aimer. Peut-être que j'ai comme... Tu sais, c'est-à-dire, j'ai peut-être donné plus de chance parce que c'est un film tellement radical que peut-être qu'un si c'était un film contemporain, j'aurais peut-être levé les sourcils puis j'aurais pas été sûr, mais là, tu le sais que c'est Orson Welles. Puis c'est plate, mais oui, j'étais dans une prédisposition où j'allais accepter. Fait que ça m'a fait toffer deux heures.
Mais mérité aussi.
Oui, exactement.
Exactement.
Fait que t'as pas aimé ça!
Non, j'ai adoré, justement.
Okay.
Mais, mais c'est tellement, donc, radical que ça m'a challengé. Ça m'a vraiment challengé.
Mais c'est challengeant, mais guess what? T'as-tu été challengé 34 000 fois cette année au cinéma?
Pas tant, c'est ça.
Puis aussi, c'est au niveau de la sexualité, il faut dire qu'à cette époque-là, au début des années 70, lorsque le film a été conçu, tourné, le sexe devenait très, très mainstream.
Oui, on s'libère, oui.
Et vraiment, il y avait des films pornographiques dans les grands cinémas de, partout aux États-Unis, puis aussi à Montréal. Il y a eu la vague des films
de fesses
ouais, ici. Donc, il faut aussi se remettre dans le contexte, je pense, du film. Je pense que faut pas le voir exclusivement qu'un an de 2018 serait comme mal le juger. Il faut le prendre
mais
pour
non,
aussi
c'est
son contexte de production.
Mais comme je te dis, c'est que même en 2018, c'est radical. C'est pour te dire à quel point Orson Welles, sa plus grande malédiction, ça aurait été d'être constamment en avance sur son temps.
Ouais.
Puis un film comme ça sort, puis c'est pas daté, tu sais. Oui, je veux dire, il y a on est dans une technique d'époque. C'est sûr que ça a été tourné dans les années que ça a été tourné, avec le fashion puis avec l'imagerie que ça a. Mais le thought process derrière aurait tout à fait pu être un thought process d'un réalisateur en 2018. Bon, c'est ça qui est fascinant.
On sait-tu ce qui restait à être complété? Parce que dans le documentaire, il n'en parle pas vraiment. Là.
Mais il y avait des scènes...
Du processus de Orson Welles, sa carrière, de pourquoi il s'est rendu à faire ce film-là. C'est ça qui est super intéressant, mais il n'y a pas le processus de comme « Bonjour, nous sommes Netflix, non, mais, et voici le film qu'on a eu entre les mains. » Tu sais, c'est quoi qui restait à compléter?
Mais ça, c'est vraiment parce que Netflix, il n'y a pas la meilleure interface. Là. Mais il y a un deuxième documentaire aussi sur le film.
Ah oui?
Il faut que tu ailles dans la section « Trailers and More »
de ça,
la
page du pas. Film.
Oh my God.
Personne ne le sait. Ça s'appelle « Final Cut, 40 Years in the Making ». Et ça, un peu, c'est plus un peu sur...
Ah, OK, bon.
Mais Peter Bogdanovich est un grand instrument, toujours dans l'héritage d'Orson Welles.
Ouais.
C'était lui qui avait supervisé la complétion de Touch of Evil.
Ouais, ouais.
C'est la version là, magistrale qu'on connaît maintenant. Ouais. C'est une version posthume, en fait. Hein,
comme tous ces films, sauf...
Ben,
tu sais, t'as pas vu le doc, mais j'étais allé sur.
Oui, je l'ai vu le documentaire.
Ah, tu l'as vu le documentaire? Oui, j'ai vu. Ouais. Parce que j'ai lu en fait qu'il fallait regarder le documentaire avant. Tu sais, je savais pas comme dans quel ordre finalement aborder le sujet. Là.
Moi, j'ai commencé par la dernière scène.
Comme un manga.
Ouais,
mais j'ai pas vu le film encore, mais j'ai vu le documentaire.
Mais l'affaire, c'est que c'est tellement pas. Puis là, je dis ça comme le plus gros des compliments, mais c'est tellement pas tête narrativement, c'est tellement une espèce de. Dans le fond, c'est ça, c'est que tu le regardes puis tu dis pas, mettons, comme Emberson, genre, ouais, ça dure une heure et demie, puis j'ai l'impression qu'il manque des scènes ou whatever. Tu sais, c'est pas comme ça, tu sais.
Mm-hmm.
Puis ça devient une espèce de délire, genre, ça se passe en une journée, puis ça finit une espèce de party qui a pas d'allure dans la maison du réal, genre. Puis t'as plein de figures qui sont comme carrément pas des. C'est pas un secret, là, vous savez, t'as
Pauline... un alter ego de Pauline Kael, un alter ego de... Puis il y a même plusieurs réalisateurs qui jouent eux-mêmes. Chabrol est dans le film.
Chabrol, il est là. Y a-tu... Je me rappelle plus qui. Je pense qu'il y a Jean-Paul Mazursky ou une couple de... de réal du temps, mais genre, c'est ça suinte...
Mm-hmm.
Ça suinte l'époque, là, genre... Mm-hmm. C'est moi, perso, c'est un de mes films...
Mais la liberté, ça, c'est vraiment un film méga libre, là. Tu sais, je veux dire, on parle de quelqu'un... qui connaît son Shakespeare de A à Z. C'est-à-dire, si lui, il veut écrire un scénario tête, il peut le faire.
Mm-hmm. Dis-toi qu'un gars qui a fait Citizen Kane à 25 ans, en tant que vieil homme, fait ce film-là. D'habitude, c'est le contraire. Genre.
Ouais, c'est ça.
Le gars qui va commencer par son truc un peu fou, là, t'sais, Godard qui fait...
Ouais,
ben, quoi, quoi, en même temps pour Godard, à bout de souffle, c'est pas fou comparé à d'autres trucs qu'il a fait après, mais tu sais,
c'est
le chemin inverse qui a commencé dans les studios puis dans des paramètres un peu plus stricts, puis... alors que là, c'est complètement éclaté.
Ah, complètement.
Donc Orson Welles,
on est moi j'ai adoré Orson Welles aussi là, je suis vraiment un vent, j'adore complètement. Puis vraiment je ne suis pas en moison.
On en parle, pourquoi qu'on en parle pas assez de ce film-là?
Je sais
ça pas. Ça fait pas de liste de top 10, puis genre c'est un peu comme mais... dans les cracks, genre c'est.
Ben c'est dans les cracks.
C'est majeur là.
Ouais.
Qui ose. C'est majeur là.
Mais ouais, c'est tellement un ovni, tu sais que ça, ça débarque là.
Il y a aussi le fait majeur. Il y a aussi le fait que techniquement, on saura jamais vraiment. C'est pas exactement le film que Orson Welles aurait fait. On,
ben non, mais Touch of Evil non plus, Chimes at Midnight non plus. Genre,
ouais, c'est ça. Fait. Non, mais je pense que ça joue un peu dans la tête des gens, dans le sens que c'est comme une version semi-officielle, on va dire ça comme ça. Donc, c'est comme un film de personne, ce film-là.
Mm-hmm.
Fait que dans un sens, c'est comme
c'est
un livre
posthume.
C'est
pas le film de personne.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Fait que je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, puis je pense que... En tout cas, je pense que c'est pour ça que le film se retrouve pas nécessairement dans les top 10. Autre gros morceau de Netflix, évidemment, Roma, d'Alfonso Cuarón. Est-ce qu'on croit en ses chances aux Oscars?
Moi, là, en date d'aujourd'hui, Roma, je prédis que ça va gagner meilleur film, meilleure réalisation.
Ça serait fou quand même, deuxième film mexicain en ligne, après Guillermo del Toro.
Ouais.
Mais j'avais pas dit ça il y a deux semaines, mettons, mais...
Mais il est pas dans la liste des... genre Best Foreign Picture.
Oui, mais c'est comme un peu Amour ou La Vita est Bella.
Ouais,
c'est...
mais Amour n'était pas aussi nominé en Best Picture.
Oui, il était nommé meilleur film aussi.
Best Picture aussi?
Mais ça peut arriver qu'il est nommé dans les deux. Ouais.
Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres films que vous vouliez aborder rapidement en conclusion d'épisode?
Moi, j'aimerais faire un petit shout-out au cinéma français parce que c'est clair que, sans que ce soit une grosse année du cinéma français, je pense qu'il n'y a comme pas l'espèce de gros film qui fait l'unanimité, mais coup sur coup, Ultra Pulp de Bertrand Mandicot plus...
Un couteau dans le cœur.
Un couteau dans le cœur d'Anne Gonzalez. Pour moi, ça représente un peu l'avenir du cinéma français, puis la nouvelle génération, puis... Moi, je suis...
Mais ça a un nom, ça, non? Ils se donnent un nom, un
peu. Ils ont signé un manifeste dans les cahiers du cinéma.
Oui, oui, oui.
Un super cool texte là, qui parle justement de faire un film, un cinéma qui est plus libre et qui est plus décomplexé. Puis on est vraiment là-dedans, d'ailleurs. Puis moi, pour moi, c'est deux des plus belles expériences de l'année. Mm-hmm. Et puis ça donne vraiment espoir de voir leur carrière grandir. Là. Mm-hmm. Fait qu'on va voir en 2019 ce que les cinémas français nous réservent. On devrait peut-être obtenir le nouveau musical de Carax qui est en gestation depuis plusieurs années. J'ai tellement hâte de voir ça. Carax qui a bien sûr signé le meilleur film du siècle. Donc... ensuite, d'autres mots en conclusion? D'autres petits films que vous voulez souligner?
Moi, juste, je sais que vous en avez déjà parlé dans un autre podcast, mais toi, t'avais pensé quoi de Cold War, Pascal?
Je me prosterne devant la compétence technique du film, mais j'ai eu beaucoup de misère avec les personnages, le message, la fin. Je trouve que c'est... ils sont crétins, les personnages. Ils sont galvaudés dans... Ils sont brassés, bardassés. C'est déterministe comme film. T'sais, c'est comme, je trouve pas qu'ils ont, ils ont aucun libre arbitre, ce qui en fait que c'est un film très étouffant, plutôt nihiliste, puis qui est beaucoup plus intéressé finalement par l'exposé social, puis la façon comment c'est fait que réellement son propos.
Ben, tu vois, moi j'aimais ça. Là, j'aimais ça, puis j'avais un peu le feeling en l'écoutant que j'ai eu quand j'ai écouté Ida, que je trouve que Pavlikovski, il y a quelque chose de. C'est tellement beau, puis c'est tellement. T'sais, je veux dire, le format 4-3,
immaculé, genre, ouais.
Mais puis aussi la façon que ce film-là traite le temps, c'est un film qui dure, mettons t'enlèves le générique, ça dure genre 1h18,
mais
ça spanne plusieurs années. C'est une histoire qui est épique, qui est tellement compartimentée. Puis je veux dire, tu passes d'un film d'espèce d'amour impossible à 10 minutes plus tard, ils s'aiment plus puis ils veulent se laisser, genre, je trouvais que dans un contexte, un film qui essaie de rallier l'espèce de macro de l'histoire avec un grand H, puis le micro d'une histoire intime, je trouvais que ça le faisait bien mieux que Roma, là, cette année, perso. Là.
Si on fait la comparaison, peut-être que oui. Peut-être que je préfère Cold War à Roma, mais c'est pas deux films que je défendrais bec et ongle. C'est deux bêtes esthétiques.
Avec l'histoire qui se mêle à l'intime. C'est pourquoi je vais le mentionner, mais pour moi, ça marchait beaucoup plus que Roma, personnellement.
Mais just for the record, Roma, c'est un film exceptionnel, puis on en reparlera peut-être.
Oh,
ou peut-être pas. Mais oui, pour moi, c'est incroyable. C'est le 8,5 de Cuarón, puis c'est du génie. Là. Donc, voilà, ça fait pas mal notre rétrospective de l'année.
Ça paraît qu'on buvait de la bière, là, on allait dans tous les sens.
On vous invite, évidemment, on va publier nos top 10 dans les prochains jours, prochaines semaines. On vous invite à lire ça, et puis vous ferez votre propre opinion. Et on va se quitter sur quelle bande-annonce? Sur la bande-annonce de Vox
Club. Shoplifters. Tiens.
Shoplifters, c'est un peu...
On
n'a même pas parlé.
En japonais, ça serait drôle, non? OK.
Mais non, la bande-annonce de Vox Lux de Bradley Corbin.
Ben, j'ai mis la semaine passée.
Ah, tu l'as mis la semaine passée. OK.
On se met sur genre Jingle Bells.
OK. On se quitte sur la bande-annonce de Shoplifters de Hirokazu Koreeda. Palme d'or, quand même, qu'on n'a pas abordé, mais qui est un très, très bon film.
Que j'ai pas encore vu.
Donc voilà, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andrew. Nous avions comme invité spécial
Benjamin Pelletier.
Et j'étais avec mes collègues.
Ouais, Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante, bonne année.
Bonne année.
Bonne année.
Dostano. Mama wa.
Sono
samesa sutara
kaeshite kinai
no? Yo soto 3人だよ na. Kyacha dane. Ne, yukai de yore.
めっちゃ可愛いじゃん。選ばれたんかな、私たち。ユリが映ってる。児童相談所が、警察署に連絡したことで。ああ。まずいな。これまずいよな。
家族になりすましていた人たちが一体何を目的にこの家に集まっていたのかは未だ謎に包まれたままの状況です。子供に万引きさせるの後ろめたくなかったですか。俺、他に教えられることが何にもないんです。<笑>
子供にはね、母親が必要なんですよ。
産んだらみんな母親になるの？
でもほら、血がつながってない方がいいってこともあるじゃん。